Hello les amis! J'ai lancé un live, il est 9h52 et l'horloge disait 22h des boîtes, c'est ça? Ouais? Faut dire qu'on a pris un coup de jus hier soir. Faut dire qu'on a pris un coup de jus hier soir, mesdames et messieurs. Tiens, je vous mets aussi, je vais vous mettre sur Twitch, je vais vous mettre la fiche de MVP aussi qui arrive là. Comme ça, vous aurez tout. Ça, un nouveau MVP mercredi, trop cool. Il est où mon samplet? On a des trucs. Annonce, sommaire, MVP. Ouais, let's go. C'est ça. Voilà, c'est ça. On a pris un coup de jus hier soir. Ouais, coup de jus. La faute a pas de chance ou complot. Ouais. Ou complot. On sait d'où ça vient. Hein. On sait très bien d'où ça vient. Nous sachons. Je vous fais la petite mise en page. Voilà. Je casse tout. C'est très artisanal ici. Hein. Un jour, il faudra que ça se professionnalise. Hein. Un jour, il faudra que ça devienne un peu carré ici. Je vous mets les affiches. Voilà. Voilà, c'est propre. Oui, hier, on a pris un coup de jus. Hier soir, on a lancé un live. Tiens, je regarde si le sommaire, vous l'avez. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Hier soir, on lance un live. Chill, tu vois, bonne journée. On est sur un triple stream. On a streamé le matin la revue de presse, l'actualité. L'après-midi, on a fait un peu de valo tranquille. On lance un Skyrim. Hier soir, que j'attendais avec impatience. Ce jeu est incroyable. Attends, je vous baisse le sommaire. Voilà. Et ça se passe bien. Bon, sauf qu'en fait, ça part en quête, alors qu'on devait monter la colline, la montagne, pour aller voir les barbes grises, pour se mettre au courant par rapport aux cris, tout ça. Bon, sauf qu'on part en quête annexe. Bon, peu importe. 22h30 et des brouettes. 22h30 et des brouettes. Tout s'éteint. La lumière s'éteint dans le studio. La caméra s'éteint. Les écrans s'éteignent. Le PC continue à tourner parce que... onduleur. Parce qu'ici, on ondule. Et donc, j'ai pas eu peur, non. J'ai pas eu peur parce que j'ai un passé qui fait que je n'ai pas peur de ce genre de choses. On aime le noir ici. On aime ce qui est dark. On aime ce qui est sombre. Et au bout de 30 secondes, bim, ça repart. Tout repart. Bah, le PC, il tourne de toute façon puisqu'il est sur onduleur. Parce qu'il ondule. Et le courant repart dans l'appart. Et au bout d'une minute, paf, ça ressaute. Sauf le PC, bien sûr, parce que le PC, il est sur onduleur. Parce qu'ici, ça ondule. Et c'est parvenu. Et alors, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, bah, mon petit setup, il ne consomme pas des masses, en fait. Donc, je me dis, est-ce que c'est l'appart? Non. Et puis, je sais pas, je passe une tête dehors et je vois que c'est un peu noir. Je me dis, le quartier est dans le noir. Et en fait, j'ai fait ma petite enquête. Non, c'est l'immeuble. Il y avait plus de courant dans l'immeuble. Voilà. Et j'ai attendu un petit peu, puis c'est parvenu. Voilà. Et puis j'ai bien fait parce que je suis rentré à la maison et j'étais en train de. Du coup, je suis allé lire les journaux. Hein, donc le stream s'est arrêté un petit peu tôt. C'était un stream de quelle heure, je vais vous dire. C'est pas un stream qui a duré longtemps, du coup. C'est dommage. Bon, du coup, je suis rentré plutôt à la maison. Je dirais 2h30 quoi, 2h45 max. Vendredi, ça c'est aujourd'hui ça. Ah ouais, 2h, c'est 2h02 ou 2h20? Ouais, 2h02, tu vois. Ouais, donc je suis rentré à la maison, j'ai lu les journaux, voilà. Et puis je suis allé me coucher. Petite série sur Amazon là, ça un truc un peu des petits courts-métrages un peu what the fuck, SF et tout, vraiment sympa. Et vers minuit 45, tu as le nom? Ouais, je peux vous dire ça, ouais. C'est vraiment sympa. Alors ça, c'est vraiment... Je me régale là, sur Amazon Prime en ce moment, là, il y a un truc. Ça s'appelle Secret Level. C'est ça? C'est où? Je l'ai perdu, là, pour la prochaine fois, là. Ouais, Secret Level, c'est une série de... C'est pas Love, Death and Robots, que j'ai adoré aussi. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est que de l'animation. Je vous lis, hein. Secret Level, nouvelle série d'animation d'anthologie qui propose des récits originaux se déroulant dans les univers de certains des jeux vidéo les plus appréciés du monde. Alors ça, j'avais pas eu du... Alors j'en ai vu... Je pense que j'ai vu 14 épisodes. Je n'avais jamais compris que c'était en lien avec des jeux vidéo. Ok. Ok. Par les esprits créatifs qui ont proposé, devinez quoi, Love, Death and Robots. C'est les mêmes gars. Ok, d'accord, c'est pour ça que j'aime. Ok, je comprends mieux. Voilà. C'est les mêmes. C'est sur Amazon Prime en ce moment et en vrai, c'est plutôt pas mal. Donc, je regarde ça. Il est minuit 45. Qu'est-ce que. Geek en carton. Mais je te prends en 1v1, ose quand tu veux. Hein. Geek en carton. Je t'en donnais, moi, du geek en carton, tu vas voir. C'est toi qu'on va retrouver dans un carton, tu vas voir. Merde. Chut. Et qu'est-ce que je disais? Et donc à minuit 45, bim! Le studio retrouve l'énergie, je le sais parce que j'ai des. Le studio est sous surveillance. Et je vois une petite light qui s'allume. Et ouais. Donc j'ai bien fait parce qu'on aurait littéralement attendu 2h30 que le courant revienne. Voilà. Voilà, ça c'est ma vie, ça. Vis ma vie de Samuel Etienne. Vis ma vie de geek, hein. Vous, comment ça va, vous? Hein, quoi? Bonjour, est-ce qu'on peut parler du report du Parlement européen de sa loi sur l'antidéforestation et de ses raisons? Waouh, Romain, il manque des lettres. Je l'ai pas. Je vois pas de quoi tu me parles. Il manque des lettres. Est-ce que tu vas reprogrammer un samplay sur Skyrim? Oui, ce soir. Oui, ce soir. Déforestation, peut-être, oui. Déforested, oui. Peut-être. Mais je n'ai pas d'infos là-dessus, en tout cas, Romain. Désolé. Oui, ce soir, Skyrim. Ah oui, puis on va la monter, cette montagne. Cette montagne montagneuse. On va la monter. On va la monter. Merci, Luc. 177 pour le troisième mois. Merci, Kigon, pour le 23e mois. Merci, Skad. Skaldskaparmal pour le 49e mois. Merci, Erelis, pour le 4e mois. Merci, Darth. Aliot, Darth. Merci pour le 34e mois. Merci, Dark. Putain, les pseudos, les gars, il n'y a que du K, il n'y a que des consonnes. Putain, l'enfer. Merci, Darkard, pour le 34e mois. Merci, Darth Aliot. Ah, vous m'en voulez, là? Vous m'en voulez, là? Merci, Camille. Voilà, c'est un pseudo. Merci, Camille. Ton pseudo, il se lit facilement. Merci pour le 52e mois. Merci, vous êtes... Merci, Julien Paris. Merci, merci, Cherge. Ah, mon Cherge. Voilà un pseudo qui se lit. Merci, vous êtes super. Ah. Je serai là pour le Twitch Skyrim, trop hâte. Non, en vrai, il est cool le jeu. Après, je m'en veux. Hier, je me suis un peu laissé disperser là. Hein, c'est parti un petit peu en quête annexe, mais bon, le jeu est trop bien, quoi. Le jeu est trop bien. Le jeu est plein Skyrim. Le jeu. Merci, Mabison. Hi, Mabison. Merci pour le ton message me fait plaisir. Le jeu est plein de tentations. Le jeu est plein de tentations. Tu pousses une porte, tu te pousses une porte, t'as une aventure. Hein. Tu rencontres un PNJ, c'est parti pour 3 heures. Hein. Tu montes sur un rocher, derrière c'est l'aventure, quoi. Waouh. C'est génial. Mais je n'oublie pas que je dois aller voir mes gars là-haut, quoi. Le jeu veut te faire dévier de ton chemin, exactement. Chacun sa route, chacun son chemin, comme disait le poète. Allez, je vous lis, c'est mon petit plaisir. Est-ce que tu as essayé Where Winds Meet? Ça me dit quelque chose, mais non. Fais voir. Allez, on est curieux ici. Where? Oh, ça me dit quelque chose. Ça, c'est un trailer que j'ai vu, ça. Ok, je l'ai. Oh, ça a l'air bien, ça. Oh, ça a l'air bien, ça. C'est sorti, ça? Il est sorti? Le jeu. Waouh, j'ai un article sur un site suisse qui dit le jeu rafraîchissant qui souffle sous l'univers du jeu vidéo. Ok, let's go. Attendez, attendez. Les gars, on va voir ça. Ok, TikTok, je vous le mets aussi, hein, l'article, hein, y a pas de raison. Il est où l'article? Il est là. Ok. Qu'est-ce qu'il dit l'article? Tu disais tous les jeux. Non, 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 je peux te dire, il y a des jeux, je peux te dire. J'aime pas dire du mal, moi. Il y a des jeux, je joue pas. Hein. Where the yes needs the no. To win. To wing. Non, non, non. Non, Raphaël, c'est Wing. Au début, t'as une espèce de wing qui est, je sais pas d'où il vient. Wing. The yes needs the no to win against the no. Voilà. Excusez-moi. Where wins. Putain, c'est Raffarin qui a fait ce jeu? C'est Jean-Pierre Raffarin qui a fait ce jeu? On dirait une citation de Raffarin en anglais. Where wins meet the wind needs. Excusez-moi. Donc, where winds meet, là où les vents se croisent, se retrouvent. Hein. Littéralement, le vent, vous direz Jean-Pierre Raffarin, qui est bilingue, le vent rafraîchissant qui souffle sur l'univers du jeu vidéo. Jeu de mots, where winds meet, le vent rafraîchissant, jeu de mots. Ils sont très forts. Je dis bravo à qui a écrit cet article. À. Il y a pas d'auteur, ok, c'est pas grave. À la croisée des vents. Ah oui, c'est joli, t'as raison. Mais le streamer est ivre. Non, mais il est fou, Berlioz. Ça, oui. Moi, je suis ivre de café. Hein. Je crois que j'ai plus de café dans le corps que de sang. Surtout que j'ai arrêté de boire du sang. Mais ceci est une autre histoire. Where Winds Meet est un jeu vidéo développé par Everstone Studio, sorti le 14 novembre dans un monde ouvert. On aime les mondes ouverts, et si on est ouvert, époustouflant, inspiré de la Chine du Xe siècle, dans laquelle la dynastie se redessine, ce jeu gratuit. Tu me parles là, un jeu gratuit. Et ambitieux fait souffler un vent nouveau sur l'industrie de jeux vidéo. Développé par un studio chinois, Where Winds Meet est un jeu vidéo d'action, d'aventure et de rôle RPG en mode ouvert, gratuit, free to play, blablabla, blablabla, inspiré. Des héros de la chevaleresse de la Chine ancienne possédant des talents extraordinaires en arts martiaux. Tiens donc, hello, hello Brooklyn, hello Brooklyn, hello Elijah. Donc, I'm not living only on TikTok, I'm mainly on Twitch for 5 years now, but for few weeks, few months, I do live on TikTok, only in the morning. De revues de presse, I read the French newspapers. Every morning, and I do video games too, but only on Twitch, in the evening. Excusez-moi, je parlais avec un ami de TikTok. Donc, ça a l'air cool. Quelqu'un connaît ce jeu ou pas? Cette semaine, j'ai animé un événement à Paris autour d'un truc de café. C'était un show que je présentais avec des artistes et tout. C'était trop rigolo et en fait il fallait le faire 6 fois en tout. C'était un show d'une demi-heure avec des mentalistes, des danseurs, des danseuses. Il y avait un magicien numérique et tout, c'était rigolo. Enfin non, il disait magicien digital, mais je traduis. Et il fallait le faire 6 fois, dont 2 fois en anglais. J'ai jamais fait ça de ma vie, c'est une catastrophe. Je crois que les gens n'ont rien compris. Donc le jeu se déroule dans un monde ouvert représentant la Chine du Xe siècle au moment où toutes les dynasties sont en train de se redessiner. La qualité visuelle rivalise, voire surpasse celle de certains jeux vendus à prix fort. Alors que c'est gratuit, alors que c'est free. Magicien digital, il fait disparaître les doigts. J'adore. Ok. Et si on se faisait un petit trailer?
Blissful retreat. A place of joy where every day is pure bliss. You grew up without parents. But hey, you had company. All those loving neighbors. Adorable little friends. Breathtaking views. But it's time to chase.
C'est cool, mais par contre, la voix, t'as l'impression que. On te vend un spot pour une compagnie aérienne quand même. Enjoy your flight. Dear guests. Dear friends. Tu vois? C'est pas très gaming, mais bon.
Your dreams out there. Welcome to Kaifeng. Total
Ok.
madness. And you'll love every minute of it. Streets humming with crowds. Serene palaces towering above. And thousands of people with their own stories to tell.
Enjoy rousing live performances. Street fights that'll get your heart racing.
Ouais.
Wall stride. Fetch from afar. You'd want to master these tricks. Rob the rich. Rob the rich.
Rob the rich. Rob the rich. Il y avait quelqu'un qui nous regardait depuis l'étranger, depuis les États-Unis tout à l'heure. Rob the rich. En français, on dit tax Zuckman. C'est. c'est. Voilà. Désolé.
Well, arrests happen to the best of us. Occupational hazard, really. Paralyze your enemies mid-chase.
Qu'est-ce qu'il lui a fait cet ours? Du loot, du loot. On aime le loot. Qu'est-ce que lui ont fait ces poissons? Qu'est-ce que... Ils aiment pas les animaux. Il y a une histoire d'amour ou bien là? Parce que pour l'instant, à part tabasser les animaux, hein. Ok. Ok. Alors, je vais être tout à fait honnête. Le trailer me fait pas déclencher le téléchargement du jeu. Mais dans le chat, vous m'avez dit que le jeu était cool. Alors attends, je vois des messages intéressants. Julien, j'arrive. Je vous enlève ça. Julien dit... ce jeu est vraiment cool, un peu difficile à prendre en main les premières heures, mais très complet, des centaines de PNJ, de quêtes, un open world incroyable, je te conseille fortement, mais il faut s'accrocher pour tout comprendre, d'accord. Tu ne regretteras pas de le tester, me dit Kazlin, extrêmement cool le jeu, me dit Burnout. Le trailer ne montre pas le gameplay, c'est vraiment dommage. Ok, bien, ce trailer est pas vraiment fou, me dit Elcrimo, pas représentatif, mais le jeu est cool. T'as mis le pire trailer, ouais. Ok. D'accord, ok. Donc c'est bien. C'est gratuit, tu perds rien à part du temps. Ok. Ok, vous m'avez convaincu, ok. Quelqu'un me demande par rapport à Genshin Impact, ça donne quoi, même délire? Après, les gars, on a le Valo qu'on ne quitte pas. Ne me quitte pas. Non, excusez-moi. On a Valo qui ne nous quitte pas. Il y a de moins en moins de gens qui regardent mes streams Valo. Je pense qu'un jour, on sera en négatif. C'est-à-dire que j'aurai un nombre de viewers sur mes streams Valo. Il y aura moins X personnes. Je m'en fous. C'est mon jeu. Voilà. S'il y a une dernière personne à jouer à Valo, ce sera moi. Voilà. Je ferai des ranked que je gagnerai. Plus 33 points à chaque fois puisqu'il y aura personne en face. Il y a ça. Il y a tous les jeux que je découvre le dimanche, tu vois. Et là, j'ai découvert dimanche dernier Skyrim, tu vois. Et j'ai envie de faire un bel arc Skyrim. En plus, je suis arché dans Skyrim, tu vois. Il y a un autre jeu qui arrive dimanche. Regardez avec l'ami Étienne Moustache. Il y aura du Étienne en force dimanche. Il y aura du Samuel Étienne, du Étienne Moustache. SnowRunner avec des gros camions. Ça me plaît. Quand Emilien des 12 coups de midi, streamer désormais, est venu à la maison, m'a fait découvrir un jeu de voiture. Là, je sais plus comment ça s'appelle là. Ça y est, j'ai rebranché la console, la PS pour y jouer. Vous voyez, ça en fait, Gran Turismo, voilà, ça en fait des jeux. Joe m'a dit, mais personne te regardera jouer à Gran Turismo. M'en fous, m'en fous moi. Joe, il veut que je joue à LOL. Ça en fait des jeux, les gars, ça en fait des jeux. Moi aussi, je t'aime, Lenny. Et quitte à être en open world, on est d'accord que Skyrim, c'est un jeu open world. Captain Wubby, je t'oublie pas, hein. J'ai eu ton message et je pense bien à toi, je vais m'en occuper ce week-end. Gran Turismo avec un volant serait trop bien, pas besoin. Ça m'a l'air un jeu très généreux à voir, c'est pas trop une usine à gaz pour moi. et ça demande pas trop de farm ou de craft à l'infini. Tu vas jouer à LOL, je sais pas, Joe il veut que j'ouvre un arc LOL. Ouais. Moi j'ai envie d'un... Alors une semaine ça va être impossible, moi j'aimerais bien faire une semaine Valo, tu vois. Non, tu ne t'excuses pas, Captain Wii, avec moi c'est comme ça qu'il faut faire, il faut me relancer parce que j'ai trop de messages, quoi. Donc non. Qu'est-ce que je disais ? Oui, moi ce que j'aimerais c'est une semaine de Valo, tu vois. Une semaine de solo queue et de 5 stack à buter sur Valo, quoi. En vrai, j'adorerais ça. Sauf que dans ma vie d'aujourd'hui, avec la famille, les rendez-vous, les revues de presse, les samplays, les MVP, vous avez un MVP qui arrive mercredi, là, qui va être génial, quoi. Tout ça. En fait, c'est compliqué parce qu'en faire une semaine de Valorant, par exemple, ce qui serait vraiment drôle comme aventure, tu vois, ça impliquerait de mettre tout ça en pause. Donc, voilà. Mais il y a Noël qui arrive. Voilà. Il y a un monde où je suis 2-3 jours à Paris. Tout seul, sans la famille, voilà, et où je peux lancer au moins un 24 heures, quoi. Ce serait drôle en vrai. Un 24 heures de solo queue, voilà. Ou un 24 heures de 5 stack, tu vois. Bonjour Samuel, je trouve que tu es trop dispersé, attention, tu risques de ne pas retrouver tous les morceaux. Mais je fais ça depuis 30 ans, moi, me disperser. C'est ça que j'aime. C'est ça. Moi, quand j'étais enfant, je voulais être journaliste. À un moment, je me suis demandé si j'allais pas reprendre la poissonnerie de mon papa. Finalement, je suis devenu journaliste. Puis après, j'ai fait de la presse écrite. Puis après, j'ai fait de la radio. Puis après, j'ai fait de la télé. Puis après, j'ai découvert l'animation de jeux avec Question pour un champion. Puis après, j'ai découvert Twitch. Voilà. Et après, je vais devenir rockstar et danseur étoile. Et puis aussi président de la République. Et que sais-je encore ? Et que sais-je encore ? C'est ça qui est bon. Moi, voilà, on aime se disperser ici. Danseur étoile avec étoile. J'ai déjà dansé avec étoile. Au The Event, pas le dernier, celui d'avant, avec qui était la streameuse qui avait organisé un petit... elle avait participé à Dalcy, justement. Très sympa. Et elle avait fait venir un danseur et on nous avait fait tous danser. Bagheera. Exactement. Et j'ai dansé avec Rayou parce que je suis arrivé, tous les couples garçons-filles étaient faits et il nous restait tous les deux. Comme on s'aime beaucoup, on a dansé ensemble. Voilà. C'était super. Et donc j'ai déjà dansé avec Rayou. Peut-être reprendras-tu une poissonnerie. Ah, c'est un peu trop tard. C'est un beau métier, mais c'est un métier dur. Mais j'ai failli, hein, j'ai failli. Papa avait créé une entreprise incroyable, mais il en avait fait quelque chose de tellement beau, cette entreprise. Je vous ai déjà raconté l'histoire de mon père quand il est parti il y a quelques mois, qu'il aurait été très compliqué d'être à sa hauteur. Et ça, on l'avait compris et on s'est dit que ça allait être trop dur, en fait. Il est mute ou quoi ? Dit Gabriel Saratiel. Gabriel, lis sur mes lèvres. Ton volume est à zéro. Vous lui écrivez dans le chat, hein, parce que... flemme. Sérieusement, président, tu te ferais pas chier ? Non, moi, je m'amuserais bien, mais je suis pas sûr que je dois infliger ça aux Français, quoi. Merci pour... voilà, il y a Schmisso qui dit « Gabriel, Sam, il est pas mute, merci ». Merci MMG de répondre à Gabriel. Merci beaucoup. Le petit 24 heures de bien régler le sonotone avant de prendre de lire un stream. Bim. Tu penses sauver la France, Sam? Non. Non, objectivement non. Objectivement non. Je pense que ce sera encore pire avec moi. Mais ça peut être un concept. Ça peut être un concept. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous parle si à Noël, un petit peu avant Noël, je vous fais un petit 24 heures Valo ? Hier, Sam, j'ai joué à Skyrim pour la première fois. Il me dit Oscar, je te remercie d'en avoir parlé. Yes ! Ça vous dit un petit 24 heures Valo ? Hein, une journée, mais 24 heures, quoi. 24 heures. 24 hours. Hein ? Ah, on fait ça? Si Hélène autorise, oui. Bah, elle sera pas là. Elle sera pas à la maison, donc on lui dira rien. Bon, bah, les amis, on va peut-être y aller, hein. Enfin, toujours pas. On va pas y aller dehors, hein. On va pas mettre fin à ce stream. On va peut-être y aller sur la revue de presse. Si tu es président, ça, ce serait la seule chose qui me referait revenir vivre en France. Mais les gars, mais... No, only one name. Elijah me dit, mais so Samuel got two names? No, I've just one. Samuel is my first name. Etienne is my last name. Comment on dit pseudo en anglais? I have pseudo. Comment on dit pseudo en anglais? I have nickname. Merci. I have several nicknames like the Mr. CH. CH is it's not for Switzerland, it's for Chibre. The Mr. Chibre. That's a joke. Old joke. Sorry about that. And another nickname from my Japanese name, because I lived in Japan 2 years, long time ago, which is Samuelu Kurotora. Voilà. And sorry about that. Okay, I thought Samuel Etienne was for Samuel and Etienne Moustache. No, Etienne Moustache is a friend. He's coming next Sunday, 8 p.m. In a show on Twitch, which name is Sam Play. It's a... C'est un jeu de mots. It's a kind of blague. Putain, il manque des mots là. Voilà. And Etienne Moustache is my next guest. I'm gonna present me a new video game, which name is Snow Runner. Ah oui, private joke. Thank you. Ça y est, bah ça y est, maintenant j'ai un stream international. Ok, bonjour à tous. Morning, salam alaikum. Malaikum salam, au chèque. Bon dia, guten tag, wesh. So, I don't have a moustache. Etienne Moustache has a moustache. I don't have a moustache. Because my name is not Etienne Moustache. My name is Samuel Etienne. Maybe I will have a moustache. Sunday. Little moustache. Maybe a little one. To make a joke. Or not. Avec une petite coupe de cheveux comme ça sur le côté. Non, parce que comme le fond de l'air est en train de changer en France là, comme une ambiance un petit peu. À un moment, il faut avoir se mettre à la page. Merci, thank you Elijah. Alors ça. Ce matin est quand même une ambiance incroyable. Yo la team, je retourne. Regardez dans quel monde mais merveilleux vivons-nous ce matin. Voilà, sur Twitch, on a des messages comme ça. Et c'est, en vrai, c'est du bonheur, c'est de la poésie à l'état pur. Il y a Ragnoc qui vient d'écrire dans le chat. Yo la team, je retourne au lit, dormir, chercher du travail. On vous aime. Voilà. Là, on est sur de la poésie. Là, c'est du Paul Éluard, mesdames et messieurs. Ça bloque Twitch au boulot, grave content de regarder ce stream de chez moi ce matin. Gabriel, quitte ce boulot, bordel. À un moment, il faut travailler dans de bonnes conditions. Hein. À un moment, tu vois. Sam, tu as trop dormi ou pas assez, t'es déchaîné ce matin. Peut-être trop. J'ai dû prendre un VPN pour regarder au boulot. Tout le monde censure le nouveau président. Merci, cher Onyx. Quel enfer! Il est 81 chez Elija. I'm watching a live that I don't understand. Elija nous said, I'm watching a live that I don't understand a word. You don't understand actually? Oh, I can't do it in English. My English is really crap, but thank you to be with us. Combien de cafés? Deux, j'en ai bu deux. C'est combien d'heures pour toi trop dormir? C'est à partir de 5 heures. Au-delà de 5 heures, c'est trop. Au-delà de 5 heures, je me réveille, je suis tout mou. Non, jusqu'à 5 heures, je suis bien. 4 heures, je suis en pleine forme. 5 heures, c'est top aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je vieillis un petit peu. Quoi. 5 heures, je suis au top. 4 heures, ça tient. 3 heures, c'est pas assez. Voilà. À partir de 6 heures, je suis bon à rien. Je suis ramollo. Ah non, on fait plus de sieste ici. Thank you, Elijah. Et ça, c'est une vraie chance. J'ai beaucoup de chance par rapport à ça. J'en tire aucun mérite d'ailleurs. On a tous un rapport différent au sommeil. On a tous besoin d'une quantité de sommeil différente. Alors, ça, on peut rien y faire. Hein. Il y a des gens, ils ont besoin de 7 heures. Il y a des gens, ils ont besoin de 8 heures. Il y a des gens, ils ont besoin de 9 heures pour être au top. Donc, moi, j'ai rien fait pour ça. À une époque, je dormais même plus d'ailleurs. Mais voilà, c'est tant mieux parce que ça me permet de faire plus de trucs. Mais j'ai aucun mérite pour ça, quoi. Bon, après, mes années de matinale en radio et en télé m'ont un petit peu aidé, quoi. Alors, c'est pas faux, comme le dit Five Story Pepper, Samuel aussi, il dort un peu pendant les games de Valo. Quand tu vois ma réactivité pendant les games de Valo, qui est pas extraordinaire, c'est vrai que on se demande si ça dort pas quand même. Hein. Attends, j'en ai un bon. Ah non, laisse-le-moi, Sugar. Attends. Oh. On peut aller plus loin, on peut le signaler en fait, parce que là ça va un peu trop loin là. Hein. Est-ce qu'on peut peut-être même le poursuivre en justice celui-là? Allez, je me le garde. Parce que là, en fait, on est sur des faits, à mon avis, qui peuvent se poursuivre, ça, non? Pour diffamation, là. Ça va assez loin, non? Vous en pensez quoi? Hein? Gucci, ok. Hein? Ah non, je vous le lis pas, parce qu'en fait, littéralement, ça peut se poursuivre en justice, ça. Mais comment ça, zéro message d'historique? Alors, Gucci, compte créé il y a une heure. Follower depuis 12 minutes. Le compte, il a une heure. Ah là là, il n'y a rien qui va. Le gars est suspect quand même. Oh nom de Dieu. Utilisateur suspect, contournement de bannissement, accès restreint. Mais il n'y a rien qui va dans le compte. Vous savez, les gars, qu'on a toutes ces infos-là, nous. Hein. Donc le gars, il contourne un ban. Il crée un nouveau compte. Il écrit des choses dans le chat qui littéralement, il se retrouve en justice, ça pleure tout seul comme un grand. Tu sais, ah, mais je savais pas que les gens allaient me lire. Ah, mais je pensais pas ce que je disais, puis je pensais pas que Samuel le lirait. On vous connaît par cœur, les gars. Tu sais que avec ton pseudo, on peut te retrouver en 2-2 en vrai. Hein. Mais non, mais pardon, Dieu le juge, je leur ferai plus. Ah. Ah, les champions! Il a le même IP. Bah oui, il a le même IP, puisque même Twitch a su que c'était un contournement de ban. Ah. On n'est pas sur un champion de l'informatique, quoi. Ah là 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 là. Et quitte à être lourd et gênant, essaye de prendre au moins, je sais pas, de changer d'IP, de prendre un VPN, quelque chose, quoi. Ah. Sinon, tu vas te retrouver en pleurs. En première instance, quoi, au tribunal correctionnel. Allez, pardon, on y va. Je crois qu'on a trouvé un champion. On y va. Vous êtes prêts pour la revue de presse? Let's go. Go. Alors, vous avez deux rendez-vous à venir. Hein. Dimanche, vous avez ça me plaît. Avec Étienne Moustache. Ok, donc un autre Étienne. Voilà. Pour nous faire découvrir un jeu qui a l'air vraiment cool, qui s'appelle SnowRunner. Et puis mercredi, le retour de MVP. MVP, ma vie pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. On a plein de chroniqueurs, plein d'invités. Je sais plus quel est l'invité MVP de mercredi prochain, mais ça va être cool. Et pour la première fois, on a donc Ludovic, c'est notre pilier, hein, c'est le spécialiste des métiers. Donc il est là à chaque émission. Il y a Presea qui sera en chroniqueuse, qui va échanger avec nous sur les sujets. Et Raska, créateur de contenu, youtubeur, passionné de musique, notamment une musique rap, mais pas seulement, qui a joué dans la dernière édition de Time Out et qui sera parmi nos chroniqueurs. Le thème, il n'y a pas de thème. En fait, la plupart du temps, on fait des émissions sans thème, en fait, avec plein d'actualités sur le monde du travail, plein de chroniques différentes sur ce dont on parle dans l'univers du taf en ce moment. Alors, de temps en temps, on fait des spéciales, comme la fois, on a fait une spéciale sur les métiers de la SNCF. Mais maintenant, on est dans la nouvelle formule, on fait des émissions, il n'y a pas un thème, il y a vraiment l'actualité du taf, quoi. Et on parle de plein de choses différentes. Voilà. Donc, ça, c'est mercredi prochain. Bon, allez, c'est parti pour la revue de presse. Je vais voir la durée de l'intro parce que je vous ai fait une petite intro un peu longue. 41 minutes, ça va en vrai. Azrudo, merci pour ton Prime. C'est super cette proposition de raid. Il y a Hitchcock qui nous dit. Non, Hickok, pardon. Qui nous propose un raid pour tout à l'heure. Théo Sacha, grande journée caritative sur la chaîne de Théo, profite de l'accès aux jeux de société pour les déficients visuels. C'est super, non? Ton aide sera précieuse, merci pour eux. Écoute. C'est noté. Si Théo Sacha est en live quand je serai vers midi 30, là tout à l'heure, à la fin du live, ce sera mon raid, promis. Salut Elijah. Yes, we love tattoos here. Oh, c'est mignon. Et il y a Craco qui vient d'écrire un message. Salut Sam, bonjour à tout le chat. Je suis souvent en lurk, mais je sors de l'ombre pour me permettre de mettre en avant un event caritatif visant à rendre accessibles les jeux de société aux personnes atteintes de handicap. Je pense que vous parlez du même événement, non? Je viens d'en parler là. C'est sur la chaîne de Théo Sacha notamment. Au profit de l'accès aux jeux de société pour les déficients visuels. Vous parlez du même? Les gens sont gentils quand même. Les gens sont gentils. Hein? Hein? Eh, vous avez vu? Comme quoi, il faut pas désespérer. Hein? C'est le même? ICOC, c'est le même? Eh, bravo. Hein. Vous voyez, il ne faut pas désespérer de cette société. Moi, je dis bravo. Tu vois, ça redonne espoir. Hein. Tu vois, t'as le message du fou du bus tout à l'heure, là, qui va recevoir une convocation bientôt. Et puis, il y a des gens, il y a des trucs comme ça, quoi. Bravo, les gars. Allez, on va bosser un petit peu. Ah, tac. 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 Twitch, je vous mets tout ça aussi. Vous avez le sommaire Twitch? Ouais, c'est bon. Ça, je vous l'enlève. Et je vous mets ça. De quoi on parle ce matin? Attends, on va partir pour le sommaire. Hop, c'est parti pour le sommaire. C'est parti. Les amis, bienvenue. Merci d'être avec nous dans la matinée, Étienne. Tous les matins, du lundi au vendredi, sur Twitch, sur TikTok, en replay, sur YouTube, tous les après-midi en podcast audio à partir de 15-16 h également, les Spotify, les Deezer, les Apple Podcasts, tout ça, c'est votre revue de presse, ça fait 5 ans qu'on le fait. Voilà. Et en plus, on a un très beau sommaire, manifestement, là que vous aimez bien. Il y a Not a Giant Squid qui nous dit waouh! Et en plus, le sommaire, il a fait de la chirurgie esthétique, et il est tout beau. C'est vrai qu'il est magnifique. Voilà. De quoi on parle ce matin? Et puis, je remercierai tous vos subs. Là. Il y a plein de subs que j'ai pas remerciés. De quoi on parle ce matin? En quelques minutes, je vous donne l'essentiel de l'actu. Si vous n'avez pas 2-3 heures à me consacrer, comme ça, vous avez un petit peu un petit résumé de l'actu. Le nouveau service militaire. Voilà, c'est au moins la troisième ou la quatrième fois qu'on en parle. Oui, c'est assez nouveau en vrai. Donc ça y est, ça se précise. Ça se précise puisque le président Macron, hier, il a fait une déclaration, est intervenu là à l'occasion d'un déplacement sur ce nouveau service militaire ou service national, puisque ce serait son nom officiel. On a un article dans le Parisien ce matin. Ce matin, j'étais pas très réveillé. Enfin, hier soir, quand j'ai lu les journaux, j'ai cru que Macron était pour une armée de dégénérés. Waouh! Et tu vois, moi, j'aurais pas utilisé ce mot régénérer. Parce que régénérer, tu vois, hop, tu glisses vite. Et pas du tout. Hein, c'est une armée régénérée. C'est pas la même chose. Le chef de l'État a dévoilé ce jeudi, donc c'était hier, le mode d'emploi du service militaire ressuscité, mixte. Alors, il double, oui, mixte parce que garçon-fille, ouais. D'une durée de 10 mois, comme le service militaire que moi j'ai fait à l'époque. visant pour l'essentiel les volontaires de 18-19 ans, il doit démarrer dès l'été 2026. Donc, à quoi ressemble ce service militaire pour au service de cette armée régénérée? Eh bien, on verra ça avec le Parisien. Dossier très intéressant dans La Croix. Regardez, le service militaire en Europe. Donc là, c'est une jeune Suédoise là, qui fait son service militaire. La Croix se penche sur les services militaires en Europe. La Suède a rétabli le service militaire dès 2017. L'Allemagne s'apprête à le faire. Dans toute l'Europe, les armées ont besoin d'augmenter leurs effectifs pour dissuader la Russie et appuyer l'armée professionnelle. Salut Elijah. Mais Elijah, t'es déjà abonné Incroyable. Hello Elijah. Notre Elijah de TikTok est maintenant aussi sur Twitch. Aucun pays n'envisage toutefois de revenir à un service national universel. En France, vous savez que ce nouveau service militaire, il est sur la base du volontariat. Voilà, donc on a un papier La Croix sur les services militaires en Europe pour voir où ils en sont par rapport à nous, quoi. Je vais très très vite, c'est le sommaire. Vous avez peut-être entendu parler de ce truc dramatique là à Hong Kong, un incendie gigantesque, mais qui a embrasé plusieurs tours d'habitation. Les images sont folles. Bon, moi je regarde pas la télé, vous avez peut-être vu ça, vous. Plus de 250 personnes encore portées disparues. Le bilan risque d'être super lourd. Après un brasier géant qui s'est déclaré mercredi, qui a touché 7 tours résidentielles de Hong Kong. Vous voyez là, voilà. Alors, en lisant l'article, vous verrez, les échafaudages sont en bambou, comme c'est la tradition à Hong Kong. Mais manifestement, l'entreprise qui menait ces travaux de rénovation, parce qu'il y avait des travaux de rénovation autour de ces immeubles, n'a pas respecté les consignes de sécurité. Et donc, c'est un enfer. Et là vous voyez, par exemple, la photo d'un homme. J'ai vu sa photo dans d'autres journaux. Je crois que c'est un monsieur de Hong Kong, 71 ans, et dont l'épouse était dans un des immeubles, quoi. Donc, on se penchera sur cette dramatique incendie. Deux papiers sur l'IA aujourd'hui, dans les échos, vous voyez, parce que dans le sommaire de Twitch, vous avez aussi les logos des échos. Voilà. D'abord sur les conséquences pour les médias traditionnels de l'IA. Voilà. Le constat des échos, c'est que de plus en plus de personnes, et notamment les jeunes, utilisent l'IA pour s'informer. Et il y a Kato qui nous dit, je vis à Hong Kong, 128 morts pour ce soir, 80 personnes encore non identifiées, 200 encore portées disparues. Waouh. Et donc, les médias, à l'heure où de plus en plus de personnes s'informent en utilisant l'IA, eh bien, ça fait peser des menaces sur les médias. Le problème, c'est que quand il n'y aura plus de médias traditionnels, notamment plus de journaux, voilà, de quoi vont se nourrir les IA pour nous informer? Eh bien, elles vont inventer. Hein. En vrai, ça pose des vraies questions. Donc, les médias face au tsunami de l'IA. Et puis, IA toujours un petit peu sur un mode critique, avec un article dans les échos encore, avec une étude du MIT qui montre que l'usage de l'IA, en tout cas leur usage intensif, pourrait affaiblir nos capacités cognitives. En limitant l'activité cérébrale nécessaire à l'apprentissage et la réflexion, ça nous rendrait un peu paresseux. Ça nous rendrait un peu paresseux de la tête. Voilà. Salut J1457. Non, j'attends plutôt tes excuses après le procès. On fera comme ça. Hein? Donc voilà, est-ce que l'IA, en tout cas l'IA utilisée de façon compulsive, excessive, est-ce que ça peut nous rendre paresseux au niveau du cerveau, quoi? Et puis on terminera avec ce qui semble être une bonne nouvelle, en matière de santé. C'est la une du Parisien ce matin. La révolution, c'est demain. On parle d'ARN messager. Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas un scientifique, moi. On avait beaucoup parlé d'ARN messager au moment du Covid avec les vaccins, c'est ça? Certains vaccins. Non, pas l'ARN. Pas l'ARN. Pas la réconciliation nationale que je prône ici. Hein, mais l'ARN collé. Ah non, ne m'emmenez pas là-dessus, hein. Ah non, pas encore. Moi, je dis vive l'ARN. Je dis vive la réconciliation nationale. Mais ça suffit maintenant. Là, c'est l'ARN collé. Donc l'ARL messager. La révolution, c'est demain. De quoi s'agit-il? Bah, manifestement, c'est une très bonne nouvelle. Plusieurs maladies, dont de nombreux cancers, let's go, pourraient être combattues par cette technologie. Les implications concrètes sont gigantesques et déjà à portée d'essais cliniques. Plop, 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 plop. Voilà. De belles promesses. Donc ça, je vais... c'est un dossier, littéralement, je vais rien comprendre. Je vais rien comprendre, mais ça m'a semblé important. D'abord, c'est la une du Parisien. Et ensuite, ça semble être une bonne nouvelle. Et c'est pas parce que je comprends rien que vous, vous n'allez pas comprendre. La calvitie aussi, pitié de la calvitie aussi, l'ARN. Alors Shenzo, j'ai pas d'infos sur comment l'ARN messager pourrait mettre en déroute la calvasse, mais ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse aussi. Je remercie les subs parce que je n'ai pas remercié les subs. Léo, Elijah, merci pour le Prime. Thank you, my friend. J'adore, merci pour le Prime. Azrou, merci pour ce Prime. Tangerine Nightmare, mes amis, merci beaucoup pour le 36e mois. Cherge, encore merci. Donc en vrai, si quelqu'un a un vrai remède, mais un vrai remède, je sais, aujourd'hui, bon, je me suis beaucoup renseigné, c'est pour un ami, hein, aujourd'hui, il n'existe pas de médicaments, de traitement miracle pour contre la calvasse. Ça n'existe pas. Voilà, je me suis beaucoup renseigné, ça n'existe pas. Non, 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 non. Et vraiment efficace, sans effet secondaire. Non, 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 non. Non, 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 non. Dany, fais pas ta pub, là. Finastéride, ça marche pour certains. Ça, pour d'autres, ça marche pas du tout. Ça dépend. Et puis, c'est pas fou, hein. Évidemment, il y a les implants, il y a la Turquie, tout ça. Voilà. Il y a... mais en vrai, un jour, il y a un gars qui va sortir un vrai truc pour avoir des... Des veuches, c'est comme ça qu'on dit. Des veuches. Et là, je peux dire que le gars, il va se faire des... Le gars ou la fille, d'ailleurs. Des couilles en or. Voilà. Est-ce que tu as vu la tier list des implants en stream pour l'humanité? Non, j'ai pas vu. Ah, bah oui, mais bien sûr, le mieux c'est d'assumer. Hein. Je suis chauve depuis mes 25 ans, j'en suis bien heureux. Vas-y, rase tout. Ton ballon bas. Moi, je rase beaucoup. On est beaucoup. Il faut s'étaler du miel de fleurs d'oignon rouge cultivé exclusivement en Colombie sur le visage, me dit Tazer. Oh, j'adore. Moi, je vole les cheveux de ma femme pour contrer ma calvasse, me dit Lucky 13. Au nom de Dieu! Au nom de Dieu! Oui, oui, le sommaire passe devant, c'est fait exprès, oui. De toute façon, c'est écrit trop petit. Et sur TikTok, et vous avez 2 cm d'écran de téléphone pour lire les articles, ne me dites pas que vous allez lire les articles. Hein. Je vous les mets pour faire joli, en vrai. Hein. Pour voir bien, il faut venir sur Twitch. Hein. Les gars, arrêtez d'avoir un complexe sur la calvasse, on s'en fiche des cheveux, concentrez-vous uniquement sur votre comportement. Ok, little Twinnie, ok, madame, ok, ok, mon général. Ou alors de la crème quantique de Guerlain, oui, c'est vrai. Samuel, give me a name of a viewer who is not sub and deserve to be sub. Non, Léo, keep your money, keep your money. That's fine. C'est vrai, il est très gentil, il veut offrir un sub. J'ai tondu le chat pour en faire une momoute, me dit Kletos Bright. Il y a des gens qui martyrisent les animaux ici. Hein. Comme dirait Roman Fraissinet, Roman, je sais pas qui c'est. Merci, Singhi. Si une femme te quitte pour une calvitie, imagine ce qu'elle aurait fait si tu parlais de ton travail. Oh! C'est quoi cette remarque? Jason Statham approuve ce message. Bien sûr, bien sûr. Mon grand-père dit que du caca de poule sur la tête, ça fait tout pousser. Ok, let's go! Ça se voit pas que tu rases tout, pourtant tu rases où? Je vous dirai pas. Ok, la molécule PP405, faites recherche, c'est bientôt validé, aucun effet secondaire, vrai résultat. Il y a Hyde qui a bien bossé sur la calvasse, hein. PP405, ok, d'accord. Bon, le jour où il y a un truc qui est efficace qui sort, un petit comprimé le matin, à prendre avec le café là, et donc t'as une forêt vierge sur la tête là, moi j'achète. Hein. Moi je, 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 Moi, je veux... quand j'étais jeune, j'avais les cheveux jusque sur les épaules. J'avais les cheveux jusque là, les gars. Tarzan, Raon. Jusque là, j'étais obligé de les attacher. Ça me ferait marrer, tu vois. C'est vrai. Avec le coutelas, oui, le coutelas en ivoire, bien sûr. Et c'était une époque, j'allais où le vent me portait. Quand souvent, je me promenais dans la jungle, je savais pas trop où j'allais. Tu vois, je prenais une pierre, je tournais mon coutelas en ivoire. Le coutelas, il me disait, tiens, va par là, let's go, j'allais tuer du mammouth. J'avais les cheveux jusque là. Raon, il faut avoir, c'est une vieille ref de bande dessinée, mais très vieille. Merci Dany pour le soutien. Ouais, Raon. Très vieille ref. Hein. On veut une photo, alors c'est affreux parce que je viens d'une époque où il n'y avait pas les téléphones portables, donc on se prenait beaucoup moins en photo, et toutes les photos que j'ai de moi avec les cheveux longs, je suis de face, avec les cheveux attachés, parce que j'avais un catogan. Super ! Donc littéralement, on voit rien, quoi. Et je vous jure. Alors j'avais les cheveux magnifiques. J'avais une crinière. On m'appelait Samson. Non, pas Véronique Sanson, Sanson et Dalila. Donc, en 103SP, cheveux au vent, mais oui, mais j'en ai rêvé de la 103SP. On parle de mobilette, ne vous inquiétez pas. Quand j'étais jeune, putain, mais en Bretagne, tu sais, il fallait un moyen de déplacement, un moyen de transport pour aller voir les amis. Voilà. Et faire le mur, et j'en ai rêvé de cette 103 SP, la petite mobilette de chez Peugeot là, avec une petite selle mono là, deux places là, comment dire, une selle un peu chopper, tu vois, avec un guidon corne de vache là. Putain, j'avais les catalogues à la maison là. Il y avait une moto bécane 51 super black, je crois. Une selle pour choper, oui, bien sûr. Une selle de chopper pour choper, oui. Biplace, voilà. Il y avait la 51 Super Black. Elle était toute noire avec un liseré doré. Putain, MBK 51, mais oui. Et puis finalement, j'ai eu une Yamaha DT50. Rouge et noir, comme le Stade Rennais. Avec un pot de détente. 70 km/h en ligne droite sur du plat avec un petit peu de vent. Incroyable. Il y avait les autres qui se foutaient de ma gueule parce qu'elle était un peu molle au démarrage et je me faisais prendre par les copains qui avaient des Chappies ou des Honda MTX. Mais je peux te dire que passer 30-40 km/h, hein, passer 30-40 km/h, il y avait le pot de détente qui arrivait là. Et là, oui, je peux te dire que là, ça rigolait moins. Du coup, t'as chopé ? Ah non, zéro. On chopait rien, moi. Je chopais les policiers, les gendarmes en moto. Enfin, ils me chopaient. Mais c'est tout. Hein, c'est extraordinaire. T'as ramassé combien pour la pub Cdiscount? Merci le gros Doun. Les capitales, t'es pas obligé. Voilà. Alors je sais plus combien j'ai ramassé pour la pub Cdiscount, mais par contre toi t'as pas ramassé ta conjugaison, hein, je vois. Hein. Normalement j'attaque pas l'orthographe et la conjugaison, mais là je suis obligé. Désolé. Le gros Doun, ramasse ta conjugaison et puis je te dirai combien j'ai ramassé pour Cdiscount. Allez, bim. Pff. D'autres questions? Oui, sympa pour un premier message. Oui, c'est... Non, mais j'attaque pas l'orthographe, justement, moi. Hein. Salut, Clad. Bon, allez. On y va? Non, mais le ramasse. Vous le soutenez, le ramasse, ou pas? Le ramasse, vous le soutenez? Non, c'est non. Non, c'est le condamné. Le ramasse, vous le condamnez? Le ramasse, vous le condamnez ou pas? Le ramasse. Non, mais le ramasse, vous le condamnez ou pas? Le ramasse. Allez, go. Ils sont très en forme, hein, ce matin. Allez, on y va. Non, mais le ramasse. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la revue de presse. Bienvenue dans la matinée Étienne de ce vendredi 28 novembre 2025. Voilà. Les accès de secours sont situés à l'avant et à l'arrière de l'appareil, ainsi que sur les côtés. En cas d'alerte, si vous entendez ce message, brace, brace. Rentrez-vous la tête dans les, dans les genoux et priez très fort, si vous êtes croyant bien sûr. Si les masques tombent, équipez d'abord ceux qui pourraient ne pas pouvoir s'équiper tout seuls, notamment les enfants. Et on commence avec le premier sujet. Let's go. On va commencer avec le service militaire, le retour du service militaire en France. Let's go. Quel nouveau service national? C'est ainsi que je l'ai intitulé. On en parle depuis plusieurs jours puisqu'on a vu arriver ce truc. Maintenant, on en sait un peu plus puisque le président Macron en a parlé hier. Il a donné quelques précisions, ce qui donne ce titre dans le Parisien. Page 4 ce matin, Macron pour une armée régénérée et pas de dégénérée puisqu'évidemment, ça n'est pas la même chose. Le chef de l'État a dévoilé ce jeudi le mode d'emploi du service militaire ressuscité, j'ai du mal à le dire. Mixte, oui, t'as raison, tu t'équipes toi-même et après tu équipes les autres. Pardon, Orticodon, c'est la différence. Et oui, tu t'équipes toi-même, d'abord, voilà. Et après, tu équipes les autres. Bon, s'ils sont morts, du coup, c'est trop tard, mais au moins, tu seras équipé, effectivement. Moi, j'ai fait mon service militaire, ouais, tout à fait. Le chef de l'État a dévoilé ce jeudi le mode d'emploi du service militaire ressuscité, mixte, donc garçon-fille, d'une durée de 10 mois, voilà, visant pour l'essentiel des volontaires de 18-19 ans, il doit démarrer dès l'été 2026. Mais c'est pas voté encore. Pierre a raison. Pop, 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 pop. C'est un projet. Il a raison, Pierre. Lisons le reportage d'Henri Vernet dans le Parisien. Finalement, ça ne s'appellera pas service militaire volontaire. Ni service national volontaire. Ça s'appellera service national. Bon, c'est super original. Déjà à mon époque, je crois que c'est un petit peu comme ça qu'on disait. Bien que purement militaire, ce sera bien un service militaire. Et toujours volontaire. On n'obligera personne. Hein. Des volontaires, donc rien à voir avec le service militaire. Bah si. Sauf qu'avant, c'était une conscription universelle pour les garçons. Quand on dit un service militaire, c'est parce qu'il est, il vise à des activités militaires. Dans militaire, il n'y a pas obligatoire. Hein. Donc c'est à vous de voir les jeunes là, si vous voulez faire ce truc-là ou pas. Donc, toujours volontaire, insiste Emmanuel Macron, venu donner le mode d'emploi ce jeudi, c'était hier à Vars, en Isère, sur le site de la 27e brigade d'infanterie de montagne au pied du massif du Vercors. Un discours plutôt sobre et inhabituellement bref pour lui, puisqu'il a parlé qu'un gros quart d'heure, alors qu'en général c'est un petit peu plus long. Surtout au vu de la dramatisation entourant ce thème, depuis la formule choc du chef d'état-major de l'armée française, hein, le général Mandon, vous vous souvenez, appelant le pays à être prêt à perdre ses enfants. Voilà, on a déjà parlé de ça, on a expliqué cette phrase du général Mandon, le chef d'état-major de l'armée, qui veut nous préparer à cette menace, cette nouvelle menace venant de l'Est, voilà, sur l'Europe et pourquoi pas la France un jour. Perdre ses enfants, comprenez, perdre des soldats. Ouais. Les futurs volontaires, rassure d'emblée le chef de l'État, serviront uniquement sur le territoire national. En métropole et dans nos outre-mer. Pas question en clair d'envoyer de jeunes recrues servir de chair à canon en Ukraine. Comme le fantasme a furieusement couru ces derniers jours. Donc a priori, ces jeunes gens-là ne seront pas envoyés sur un sol autre que français. Sur plusieurs points, le président a clarifié les choses. Ce service national qui démarrera dès 2026, c'est dans pas longtemps, sera ouvert aux jeunes hommes et femmes. Les gens me disaient tout à l'heure dans le chat, mais il y a une limite d'âge de 18 à 25 ans. Voilà. Le cœur des effectifs sera composé des 18-19 ans, ouvert aux garçons, aux filles de 18 à 25 ans, avec un cœur de cible 18-19. Il durera 10 mois, okay, calé sur l'année de césure des étudiants et devrait être rémunéré environ 800 € par mois. Il débutera par une formation initiale d'un mois au rudiment de la vie militaire, à la discipline, ok, bon. Au maniement des armes, bah oui, c'est un service militaire. Voilà. À la marche au pas et au chant. Tout ce qui concourt à la grandeur des nations, décrit le président. Cette phrase est un peu étrange parce que voilà, on a un parallèle entre la discipline, le maniement des armes, la marche au pas et le chant, et la grandeur des nations. Je ne sais pas si la grandeur d'une nation peut se mesurer par la capacité de notre jeunesse à chanter la Marseillaise en marchant ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui a été dit. Les 9 mois restants, puisqu'il y a un mois en gros de formation, de classe, comme on disait nous à notre époque, se dérouleront au sein d'une unité militaire, hein, où les jeunes volontaires vivront au même rythme que les autres soldats, par exemple pour des missions sentinelles, de protection de sites, voire dans les services d'état-major. Donc on est quand même, même si on est sur le sol français, on est quand même bien sur des missions militaires. Quelqu'un me dit, mais ça n'existe pas déjà le service civil ? Alors je répète, c'est un service militaire. M-I-L-I-T-A-I-R-E. Nouveauté, Macron annonce qu'en cas de crise majeure seulement, le Parlement pourra autoriser l'exécutif à faire appel de façon obligatoire donc à des recrues au-delà des volontaires dont les compétences auront été repérées lors des journées défense et citoyenneté. Directif. Macron annonce que les premiers dossiers de candidature, mesdames et messieurs, dont les conditions seront précisées par le ministère des Armées, commenceront à être sélectionnés dès la mi-janvier. Pour les incorporations lancées à l'été prochain. Avec un démarrage en douceur, l'armée professionnelle qui a rompu avec la conscription il y a 30 ans et veut disparaître nombre de casernes, n'étant pas équipée aujourd'hui pour accueillir de gros bataillons de novices, il devrait y avoir au début 70 sites dédiés à la formation initiale. Puis après, il n'y aura plus besoin de casernes, parce qu'en gros, ces jeunes gens iront dans les structures militaires existantes. Il faudra peut-être rajouter des lits, par contre. Ce sera donc 3000 jeunes la première année, ça commence doucement, avec un objectif de 10 000 par an en 2030, 50 000 à l'horizon 2035. Donc oui, c'est mixte. Voilà, donc ça va monter en puissance progressivement. D'un coût, certes, bien moindre que celui du service obligatoire pour les hommes de jadis. Ça coûtait pas mal d'argent, le service, la conscription, le service militaire obligatoire pour les hommes. L'une des raisons pour lesquelles Jacques Chirac l'a arrêté. Mais ça coûtera quand même 2,3 milliards d'euros sur la période 2026-2030. Donc c'est pas un budget annuel, a priori c'est 2,3 milliards pour cette période de 2026-2030. Le chef de l'État qui enterre du même coup le SNU, qui a été un peu un bide, le service national universel qu'il avait créé sans succès, insiste sur l'objectif militaire et non pas de brassage civil de ce service, ce qu'il vise, c'est un modèle hybride d'armée correspondant aux menaces qui arrivent devant nous. Une armée régénérée, avec pour socle l'armée professionnelle d'active, plus les réservistes, voilà, et donc cette nouvelle force issue du service national. Donc une armée constituée des professionnels, des militaires professionnels, deux, des réservistes, trois, de ces jeunes issus du service national. Justement, a-t-il galvanisé les lycéens qui étaient présents hier à Vars lors de ce discours ? Pas vraiment. Il y a quelques jeunes qui ont parlé aux Parisiens. Si Jade, 17 ans, approuve ce dispositif, elle ne voit pas s'y engager. C'est pas forcément mon truc, dit-elle. Antonin, lui, en terminale, est encore plus catégorique. Moralement, je ne voudrais pas prendre le risque d'être appelé à faire la guerre. Je pense que la violence ne résout pas les problèmes. De toute façon, il ne se voit pas porter l'uniforme et obéir aux ordres. Pierrick, lycéen pro de 17 ans, lui, est intéressé. Dit-il, pour l'expérience que ça apporterait, manier les armes, se former, songe-t-il, et l'engagement de la jeunesse, franchement, j'y crois, dit-il. Voilà. Je vous lis un petit peu sur... je vois plein de messages sur ce service national, service militaire, et puis après, on va voir ce qui se passe en Europe. Qu'ont fait les autres pays ? Ce qui me fait un petit peu peur, me dit Phoebe, c'est que pour le moment c'est volontaire. Ça, c'est quelque chose que je lis souvent et je trouve ça intéressant. Mais au vu du contexte géopolitique, on peut se poser des questions. Dans quelques années, est-ce que ça ne deviendra pas obligatoire? Et puis, d'autres inquiétudes peuvent naître en disant, bah, là, pour l'instant, on nous promet que ces jeunes ne seront pas envoyés sur un sol étranger, mais est-ce que ça peut ne pas changer? Je comprends ce genre de questions. Alors, 800 euros mensuels, certains disent, c'est que dalle. Et Monsieur Little Cat répond en étant logé, nourri et blanchi. C'est énorme, pas beaucoup de monde peut se vanter d'avoir 800 euros par mois juste pour le confort et le loisir ou pour épargner. Manier les armes, super l'objectif. Alors Zabou, c'est un peu la définition d'une armée, si tu veux. La définition du soldat et du militaire, c'est qu'effectivement, à un moment, il est amené à utiliser les armes et donc apprendre à les manier. C'est mieux s'il sait s'en servir, quoi. Je rappelle que c'est un service militaire. Après, vous pouvez estimer aussi qu'un pays comme la France n'a pas besoin d'armée. Ou d'armes. Et qu'il n'y a pas de menace qui pèse sur notre pays. Alors, c'est pas l'avis de l'armée française, c'est pas l'avis manifestement du président Macron, c'est pas non plus l'avis des services de renseignement, mais vous pouvez vous estimer que on n'en a pas besoin. Merci Ours du Beyblade. Ah, c'est marrant, je parlais de Beyblade avec les enfants ce matin. Merci, merci, merci Guin, Cisuin, je sais pas comment je prononce ton pseudo, mais un grand merci. Merci Dani. Je vous lis, hein. Il y a Mava qui dit, je n'irai pas, moi, par exemple. Alors, je n'irai pas faire ce service ou combattre, mais je dis merci à toutes les personnes qui s'engagent chaque année. On a besoin d'une armée de métiers. Il y a Cryo-Jemou qui dit, les gens font les choqués, alors que si on est encore français aujourd'hui, c'est parce qu'on a dû se défendre au fil des millénaires. Il faut parfois se confronter au réel dans la vie. Vici Sparda, c'est vrai que les Américains, la Chine, la Russie, etc., tous ces gens ne nous veulent que du bien. Peewees, au risque de passer pour un vieux con, donc Peewees ne parle de son service militaire, humainement, ça a été une très bonne expérience pour moi. Alors, il y a Tégolet qui nous dit tout le monde s'en irait si c'était obligatoire, les Français ne tiennent plus autant qu'il y a 100 ans, par exemple, à l'idée de défendre une patrie. Idée un peu morte avec le départ à la retraite des boomers, estimes-tu tes Golek? Je trouve que c'est un débat extrêmement intéressant. De mon temps, en 96, c'était 513 francs par mois. Alors, Amadi, toi, tu as été dans les derniers à faire ton service militaire, je crois. Hein? Parce que moi, je l'ai fait en 94-95. Et j'étais un peu dans les dernières générations aussi. Et c'était, ouais, je dois avoir 400-500 francs, ouais. Donc on était sur... En euros, ça fait combien ça? 400, ça fait moins de 100 euros, c'est ça? 80 balles, 80 balles? Bon après, c'était... Bon, c'était pas beaucoup, mais y a eu l'inflation depuis, donc c'est pas 80 euros d'aujourd'hui, hein, bien sûr. Est-ce que c'est un bon souvenir? Oui, pour le coup, moi je l'ai fait dans des conditions extrêmement privilégiées parce que je savais que dans les armées, il y avait des comment des il y a des services d'information dans les armées. dont, des journalistes, on va dire, militaires, qui produisent des médias à destination des militaires. C'est essentiellement consommé et lu par les militaires pour avoir les informations en fait sur les différentes armées. C'est ce qu'on appelle les SIRPA, services d'information, je ne sais plus quoi. Il y a un SIRPA mer, un SIRPA terre, un SIRPA air, un SIRPA gendarmerie. À l'époque, c'était le cas. Et moi, quand j'ai appris ça en tant qu'étudiant, et à l'époque, il fallait faire son service militaire, j'ai donc essayé de faire mon service militaire dans un SIRPA pour en fait être journaliste. Donc j'ai passé... en fait, c'est comme pour un job que j'ai envoyé des lettres de motivation, des CV à tous les SIRPA. Pistolet, non, zéro piston. Et donc j'ai passé plein d'entretiens. Il y a les SIRPA qui n'ont pas voulu de moi. Par exemple, la gendarmerie n'a pas voulu de moi. Parce que j'étais myope comme une taupe. Et pour être militaire, je ne sais pas si c'est toujours vrai à l'époque, mais pour être gendarme, il fallait avoir une bonne vue. Et donc dans mon, je sais plus comment ça s'appelait, le CIGICODE, je sais plus comment, c'était des aptitudes physiques, et moi j'étais vraiment miro, quoi. Et donc j'étais recalé d'un travail de bureau, parce que en fait, l'essentiel du travail c'était d'écrire des articles derrière un ordinateur. J'étais recalé de mon SIRPA gendarmerie parce que j'étais myope. Le gradé, le CIGICOP, le gradé était très très désolé, mais il m'a dit je suis désolé, c'est la règle, voilà. Voilà. Donc du coup après j'ai postulé à l'armée de l'air, voilà. Et ils ont failli me prendre aussi. Et puis j'étais un peu con à l'époque. Et donc j'avais envoyé un CV parce que c'était vraiment comme un recrutement dans une boîte. Et puis dans mon CV j'avais mis mes activités associatives. Voilà, parce que j'étais assez engagé dans des associations, dans des mouvements de jeunesse. un peu militant, voilà. Et moi je mettais ça dans mon CV parce que j'étais très fier, moi, de passer du temps comme ça à faire ça, quoi. Et à un moment ils m'ont dit, mais enfin ils m'ont pas dit ça d'ailleurs, mais j'ai vu que ça tiquait un peu, quoi. Et ils ont considéré que cet engagement citoyen associatif était pas très très voilà, pas très malin de ma part, quoi. Donc ça a pas été possible. Et puis finalement la Marine nationale a bien voulu de moi. Voilà. J'ai fait mon service militaire dans la Marine nationale. C'était cool en vrai. Et c'était génial. Et je crois aussi que j'étais allé à mon entretien pour être embauché par l'armée de l'air avec Charlie Hebdo sous le bras, que je lisais. Et j'ai appris après que Charlie n'était pas beaucoup lu. Enfin, était pas très bien vu, notamment par les gradés, quoi. Enfin, un peu con le Sam en vrai. Voilà. Donc, je crois que quand je suis allé à mon entretien pour la Marine nationale, je n'avais pas mon Charlie Hebdo sous le bras. Par contre, une fois que j'ai été embauché, après, je l'ai amené à la rédaction. C'est là où j'ai compris que c'était pas bien vu. Je sais pas, ils avaient une drôle de vision de Charlie Hebdo. Thank you, Elijah. Have a nice day. Have a nice night. Brest ou Toulon. J'ai fait mes classes à Bordeaux, à Ourthin. Voilà. Donc là, j'étais en matelot, quoi, avec la coiffe, là, qu'on appelait le bachi, avec le pompon rouge, là. Marine nationale, là. Je me rappelle, il était trop petit pour moi. Ça me faisait une marque rouge, là. C'était affreux. Et j'avais une espèce de pantalon un peu pas de dev bleu marine en truc en tergal, je sais pas quoi là. Et le petit haut à rayures là. Non, ça s'appelle le bashi. Ah. Et j'ai tout ça à la cave dans une petite valise. Donc j'ai fait mes classes, on a tiré au fusil, tout ça, on faisait des footings. Puis au bout de quelques temps de classe, j'ai été en poste à Paris pour écrire des articles sur les bateaux. Voilà. Sam Jean-Paul Gaultier. Ouais, plus Jean-Paul que Gaultier, tu vois. Ouais, j'étais, tu vois, il y a des gens à qui l'uniforme va super bien. Ben, je peux vous dire que l'uniforme de matelot ne m'allait pas du tout. Je ne ressemblais à rien, mais à rien d'une puissance, mais à rien, quoi. Tu vois. Mais à rien, quoi. Ouais. Donc je l'ai, voilà. Le poste de planqué. Ah oui, c'est planqué, ouais. Par contre, je l'ai cherché mon poste. Je peux dire que j'en ai passé des entretiens. Il m'a pas été offert, quoi. Photo, je crois que j'en ai pas. Oh, c'est vraiment un service militaire de planqué, par contre. Mais je l'ai cherché, quoi. En gros, pour moi, c'était une première expérience pro. Parce qu'en gros, tu sors d'études supérieures, t'as 10 mois de ta vie que tu donnes littéralement à la nation, quoi. Et à un moment, tu te dis, bon, ben, est-ce que ça pourrait pas, moi aussi, me servir un peu? Donc, j'ai vu ça comme une première expérience, un premier poste. Et comme il y avait des activités journalistiques, entre guillemets, au sein de l'armée, ben, en fait, je me suis dit, tiens, il faut absolument que je fasse ce service militaire-là. Ça me fait une espèce de première expérience pro. Alors, je dis pas que c'est ça qui m'a lancé dans ma carrière de journaliste, mais disons que c'était... Et puis, comme c'était à Paris... Et comme j'étais déjà un petit peu, j'avais un rapport un peu particulier au travail, le matin, je travaillais bénévolement sur une radio associative parisienne. Je faisais des matinales où je présentais des petits flashs d'infos sur une petite radio associative qui s'appelait Radio Aligre, qui était basée dans le 12e arrondissement de Paris. Donc je me levais très tôt le matin, je faisais la matinale sur Radio Aligre. Après, j'allais faire mon service militaire, donc à partir de 9h, 9-10h, jusqu'à, je sais pas, 18h, hein, c'était cool. Hein. Voilà. Le soir, j'étais chill. Et le week-end, je travaillais sur une autre radio, Radio Nostalgie, où je faisais un stage aussi, où je faisais du reportage. Donc, je travaillais 7 jours sur 7. Ouais, j'avais 3 occupations. J'avais une matinale le matin en semaine, j'avais le service militaire, et j'avais le week-end, je travaillais sur une radio. Et donc, en un an, quand je suis sorti de ça, bah, j'avais, en plus de mes études, j'avais quelques petites lignes comme ça. J'avais si, ça, ça, ça. Ça m'a permis d'avoir un premier petit boulot. Et puis, le premier boulot, on a entraîné un deuxième, etc. Quoi. Donc, planqué, mais comment dire, le truc était un peu pensé quand même. Le truc était un peu pensé, quoi. Vous voyez, c'était pas je me cherche une planque pour une planque, quoi. Je cherche un truc qui allait peut-être me servir un petit peu pour le taf, quoi. Parce que déjà à l'époque, c'est devenu encore plus dur aujourd'hui. Trouver un poste de journaliste, trouver un taf de journaliste, être embauché par une rédaction, c'était déjà un enfer à l'époque, il y a 30 ans. Il y a beaucoup de gens qui voulaient faire ce métier, il n'y a pas beaucoup de place. C'est devenu pire. Donc moi j'avais compris à l'époque que si je voulais avoir un jour la chance de faire ce métier, ben, il a fallu que je mette un peu d'expérience, quoi. Et ce service militaire a été une première expérience. En plus, ça m'a fait des trimestres de retraite. Ça vaut quelques trimestres de retraite aussi. Pas trop sur l'eau. Ah ben, je suis jamais sur un bateau, moi. Moi j'ai fait un service militaire dans la marine nationale à terre, moi. J'ai jamais vu un bateau, moi. J'aurais adoré, hein. Mais c'était cool, on était avec 3-4 matelots. 3-4 matelots. Dans le bureau, on rigolait bien, c'était cool. Il y avait un appelé qui avait fait une classe préparatoire, je sais pas comment, une prépa militaire, donc lui il était aspirant. Et dans le bureau à côté, il y avait un vieux monsieur qui était charmant. Le contre-amiral de Drésiguet. Contre-amiral, c'est le premier grade d'officier supérieur amiraux, quoi. Avant, t'avais été capitaine de vaisseau, avant, je sais plus ce que t'avais, capitaine de frégate, bref. Tous les grades de la marine qui sont assez rigolos. Et à partir du moment où tu deviens contre-amiral, vice-amiral, vice-amiral d'escadre, amiral, etc. Et lui était contre-amiral. Il arrivait sur la retraite. Et il était donc, le directeur du journal qui s'appelait Col Bleu, l'hebdomadaire de la marine nationale. Il était dans son petit bureau à côté, il était trop gentil. Et nous, on avait mis les ordinateurs en... On avait mis les PC, enfin je ne sais pas si c'était des PC, les vieux ordinateurs qui nous servaient à écrire des articles. Et on les avait mis en... On les avait reliés un petit peu en LAN. Et on jouait sur des vieux jeux vidéo pourris. Hein. Et dès que l'amiral sortait de son bureau... Et il venait, on appuyait sur une touche un peu urgent et on retombait sur notre fichier Word où on était censé écrire des articles. Quoi. Sachant qu'en vrai, on avait 2 à 3 heures de vrai boulot par jour. Et le reste du temps, on était en LAN. C'était rigolo. C'était sympa. Quel jeu? Bon, les vieux jeux. Moi, je crois que j'avais, c'était, il y avait Civilization qui commençait à l'époque. Et moi, je jouais beaucoup à Civ. L'argent public était gentil, il nous filait 80 euros par mois. L'argent public, tu sais où tu peux te le mettre? Et l'argent public, 80 euros par mois. Excuse-moi de pas bosser 12 heures par jour à Donf, quoi. Je crois que c'était Civ. Ah, ou Age of Empire. Est-ce que tu es encore en contact avec ses collègues? Certains sont restés des amis. Je me rappelle d'un autre Samuel qui est devenu journaliste à plus tard, un passionné de cinéma, qui a bossé pour Libération, qui a bossé pour Télérama. Et un autre copain, Morgan, avec qui j'ai gardé un contact très longtemps. Mais là, je ne sais plus où il est maintenant, parce qu'on s'est un peu perdu de vue. Mais c'est lui qui m'a présenté ma meilleure amie à l'époque. Civ 1 date de 91, ouais, bah ça marche quoi. Donc oui, c'était un bon souvenir. Ouais, ça devait être Civ. Ouais, Age of Empires, ça devait pas exister à l'époque. Ok, bon, pardon, j'ai fait un petit pas de côté là. Voilà. Alors maintenant, je vous emmène en Europe. Pour voir ce qui se passe chez nos voisins européens en termes de services militaires. Let's go. Pardon pour cette petite parenthèse en vrai là. Dame, le service militaire en Europe, là on était avec le Parisien, là c'est avec La Croix. Le journal La Croix. Kezako, qu'est-ce que ça dit? Les jeunes Européens invités à servir pour faire masse. La Suède, là c'est une Suédoise, là, une jeune Suédoise qu'on voit là ici. La Suède a rétabli le service militaire dès 2017. L'Allemagne s'apprête à le faire. Dans toute l'Europe, les armées ont besoin d'augmenter leurs effectifs pour dissuader la Russie et appuyer l'armée professionnelle. Aucun pays n'envisage toutefois de revenir à un service national universel. Merci, Olinox. C'était la nuit, il faisait moins 20 degrés. Waouh, on est où là? Alice Vestlund, 18 ans, avançait en pleine forêt au milieu des tirs marchant dans un mètre de neige. Waouh. Elle dirigeait un détachement de chasseurs. C'était une sensation très forte. Avant mon service, je n'avais jamais porté une arme et là, il me fallait tuer mon ennemi, se souvient-elle, évoquant l'exercice final de son service militaire à Jämtland, à 400 km au nord de Stockholm. Donc, c'est une jeune Suédoise. Cet exercice a duré 20 jours. 20 jours dans la neige, quoi. Il m'est arrivé de craquer, mais on apprend qu'on est capable de bien plus qu'on ne le pense, dit-elle. Alice était très décidée à s'engager dans l'armée. J'ai beaucoup réfléchi à ma motivation, explique-t-elle, originaire du Nord. À quelques centaines de kilomètres de la Russie, Alice évoque la guerre en Ukraine. J'avais envie de servir mon pays et de savoir nous défendre, dit-elle. J'avais envie de servir mon pays. La jeune femme est aujourd'hui présidente de Pliktradet, l'association des anciens du service militaire. Depuis 2017, donc la Suède, 2017, donc ça fait 7-8 ans, a rétabli un service obligatoire mais pas universel. Tous les jeunes, hommes ou femmes à l'âge de 18 ans, reçoivent un formulaire électronique à remplir. Il contient des questions sur la santé, la motivation, la situation personnelle. Les jeunes qui correspondent aux besoins de l'armée sont convoqués pour des tests. D'accord ? Donc c'est pas pour tout le monde. Environ 8000 recrues, c'est pas beaucoup, hein, 4 à 8% de leur classe d'âge, selon les années, sont finalement retenus et doivent obligatoirement suivre une formation militaire de 9 à 15 mois. Voilà. Nous n'avons pas besoin de tous les jeunes de 18 ans, dit l'armée suédoise. Nous préférons un système sélectif et attractif qui offre une formation de haute qualité, explique le ministre suédois de la Défense. Selon Emma Johnson, qui est chercheuse à l'université suédoise de la Défense, cette sélection permet de ne pas trop peser sur l'ensemble de la société. Nous avons eu le luxe jusqu'ici de laisser les plus motivés faire leur service, d'accord, ce qui a contribué à son succès. Donc c'est vraiment c'est sur la base du volontariat ou pas? Ou alors les mecs qui sont choisis sont obligés de le faire. Non, il est obligatoire, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, l'armée, ouais, tu remplis un formulaire à 18 ans, et selon ce que voit l'armée là-dedans, l'armée te sélectionne, quoi. Et j'ai l'impression qu'après, là, c'est obligatoire. Défécateur, tu dis système pas idiot en vrai, on s'assure que tout le monde est motivé, personne ne perd son temps. Non, t'es un peu désigné volontaire. Hein. Donc motivé, je suis pas sûr. Hein. Il est obligatoire ce service. Mais choisi sur lettre de motivation, donc quand même bien volontaire. Ouais. Ouais, ouais. Ah si, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Oui, Eric, ça a raison. Tu fais une lettre de motivation, donc si tu mets... si ta lettre de motivation, c'est « fuck l'armée »,« vive la ganja », Moi, si vous me prenez, ça va être une catastrophe. Ouais. Voilà. Si par exemple, dans ta lettre de motivation, tu dis, voilà, je suis militant politique dans telle partie et j'ai Charlie Hebdo, et vive Charlie Hebdo, ok. Ok, donc oui, non, mais donc vous avez raison, c'est un service obligatoire, mais qui manifestement prend les plus motivés, quoi. Ok, d'accord. Ok. Bon, ça a l'air de marcher. À quand un live sur YouTube? Vous voulez que je live sur YouTube? Vous voulez que je triple live? Il y a Futong dans sa lettre qui va mettre « Je suis prompt à trahir, vous êtes prévenu. » On verra ça. Donc, nous n'avons pas besoin de tous les jeunes de 18 ans. Nous préférons un système sélectif et attractif. D'accord, ok. Dans le métro de Stockholm, les forces armées font de la publicité pour recruter les jeunes. Le budget de la défense. Ah, merci, Unknown. Bien joué. Pardon, c'était un truc par rapport à un spectacle de magie. Ma cité a craqué, c'est ma première fois sur TikTok. Et ma cité a craqué, ça c'est un pseudo, j'adore. Hein. J'ai la ref. Dans le métro de Stockholm, les forces armées font la publicité pour recruter des jeunes. Le budget de la défense est en hausse afin de faire passer le nombre de conscrits. Donc 8 000 personnes actuellement, 8 000 jeunes. À 12 000 à partir de 2032. 12 000, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Sur les chiffres, en France, là, on vise à peu près ça au début. Hein. Partout en Europe, donc ça c'est pour la Suède, partout en Europe, face à la menace russe, s'impose à nouveau l'idée qu'il est nécessaire de renforcer les armées pro-professionnelles en faisant appel à la conscription. Voilà. Plusieurs pays s'apprêtent également à rétablir un service militaire sur le modèle suédois. Bon, d'accord. L'Allemagne, la Belgique, la Roumanie, la Pologne. Je suis en train de réfléchir. Ce que propose Macron, c'est la même chose? Alors là, on voit que c'est obligatoire, mais avec une lettre de motivation, donc on peut estimer que c'est quand même un service un peu volontaire, au final, j'ai l'impression. Donc nous, c'est au service d'un service volontaire, on est après sur les mêmes chiffres. Oui, ça ressemble en fait, hein. Ça ressemble. Plusieurs pays s'apprêtent également à établir un service militaire sur le modèle suédois, l'Allemagne, la Belgique, la Roumanie, la Pologne. Bon, c'est marrant, c'est que des pays plus à l'est que nous, comme par hasard. La préoccupation des états-majors européens aujourd'hui, c'est retrouver de la masse, explique Olivier Schmitt, professeur au Danemark. Avec la menace russe à notre porte, on se retrouve face au risque d'une guerre qui consommerait beaucoup de force, comme on le voit en Ukraine. Alors pour dissuader ce type d'adversaire, il faut montrer qu'on est dangereux et capable de soutenir l'effort d'un éventuel conflit. Le service militaire obligatoire a été supprimé en France en 97. Team 94-95 ici. Nos voisins ont pris à peu près la même décision, à peu près au même moment, hein, de supprimer la conscription. Conscription, c'est le service militaire obligatoire à l'époque pour les garçons. En Belgique, fin en 94. Pays-Bas, fin 97. Espagne, fin 2001. Italie, fin 2005. Salut Léonard. Les Européens sont dotés de forces plus légères, entièrement pro, comme la France actuellement, hein, et destinées à être déployées rapidement sur des théâtres extérieurs pour y mener des missions ponctuelles. Mais l'invasion de l'Ukraine en 2022 a tout changé. Elle a réveillé la conscience d'un danger de nature différente. Les Eurobaromètres, qui mesurent les opinions publiques en Europe, montrent que la défense et la sécurité sont devenues la première préoccupation des Européens, pour 37% d'entre eux, devant les questions économiques, 32%, loin devant la préservation du climat, 17%. Pour avoir des armées plus nombreuses, la conscription reste le meilleur moyen. Chaque pays se retrouve donc face à des choix. Est-ce qu'il faut rendre le service obligatoire ou volontaire? Faut-il l'ouvrir aux femmes? En France, service volontaire ouvert aux femmes, donc. Hein. Voilà. Quelle durée doit-il avoir? Une chose est sûre, le service militaire ne sera plus jamais ce rite de passage qui éveille parfois la nostalgie, le vieux service militaire. Hein. Aujourd'hui, plus aucune armée européenne n'a l'ambition d'accueillir l'ensemble d'une classe d'âge. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et ça coûte très cher, et on n'a pas les moyens, et on n'en a pas besoin, c'est ce que je disais. Là où il est rétabli, le service militaire vise à fournir quelques milliers de recrues supplémentaires. On parle de 8 000, 10 000, 30 000 jeunes en France. Je ne sais pas combien c'est une classe d'âge en France, mais c'est beaucoup plus que ça, bien sûr. Puis à garnir les rangs éventuellement des futurs réservistes, pour ceux qui voudront être réservistes. Lorsqu'il y a suffisamment de volontaires, c'est facile, mais que faire si ça n'est pas le cas? Imaginons qu'aucun jeune Français, ou quasiment très, ou très peu, veuille être volontaire. La plupart des pays ont opté, eux, pour le tirage au sort.
Waouh!
Merci Capstri pour le soutien. Tirage au sort? Ça fonctionne bien à condition qu'il n'y ait pas d'échappatoire si on est désigné. Au Danemark, là où il enseigne, dit Olivier Schmitt, c'est la règle. Ah ouais, c'est c'est Hunger Games! C'est Hunger Games! Au Danemark, c'est la règle. Dans ce petit pays, le service militaire n'a jamais été aboli. Danemark, ils n'ont jamais aboli le service militaire. Jusqu'à présent, il servait à recruter 1500 à 2000 soldats supplémentaires par an. Donc il y a un tirage au sort, on a 1500 à 2000, bim, ils ont le ticket, quoi. Voilà. Et l'an prochain, ils vont passer à 6000 avec un service ouvert aux femmes. Ah, pardon. C'est dans le cas où il n'y a pas assez de volontaires. C'est dans le cas où il n'y a pas assez de volontaires. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de tirage au sort. C'est dans le cas où il n'y a pas assez de volontaires. C'est s'il n'y a pas de volontaires. Voilà. On verra bien si cela sera nécessaire, dit Olivier Schmitt. Mais au Danemark, il existe de toute façon une conscience de la menace. Voilà. Le chef d'état-major s'exprime régulièrement à ce sujet. Il y a un consensus politique au Danemark sur l'existence réelle de cette menace. Voilà. Et par ailleurs, il y a des marges budgétaires, ce qui fait que les investissements dans la défense ne se font pas au détriment d'autres postes, de l'éducation, de la santé. Donc il y a une bonne acceptation sociale de ce service militaire au Danemark. En Allemagne, maintenant, le débat était beaucoup plus vif. L'ouvrir aux femmes serait bien en souci d'égalité des sexes. Ah bah c'est ouvert aux femmes qui hausse en France le projet Macron là. C'est pour garçons et filles, hein. En Allemagne, débat beaucoup plus vif. Le pays souhaite disposer d'une armée de 260 000 militaires d'ici à 2035 contre 180 000 actuellement. Là, on ne parle pas de 2 000 ou 3 000 jeunes, hein. Elle envisage donc de rétablir dès l'année prochaine, en 2026, un service militaire pour 20 000 jeunes Allemands. Bim! Les Allemands, ils veulent y aller, quoi. La loi doit être votée au Bundestag en décembre. Bundestag, donc c'est la chambre basse du Parlement allemand. Le service durera 6 mois. Ça, par contre, c'est pas trop long. Et le pays va miser sur le volontariat. Le ministre de la Défense, le social-démocrate Boris Pistorius. Pistorius. Comment ça, Pistorius? Pistorius, le gars qui avait les lames pour courir, là? Qui a tué sa femme, là? Vous avez la ref? Ah oui, c'est Oscar, c'est un autre. Je déconne. Oh, quelle histoire. Oh, quelle histoire ça avait été, ça. Oh, quelle histoire ça avait été. C'est monstrueux, ça. Donc, non, c'est pas. C'est Boris, c'est un autre. Quelle histoire. Donc, le ministre de la Défense, merci Tartuffe. Tu régales parce que tu offres 10 abonnements à la communauté. Voilà. Moi-même étant un Tartuffe, vous le savez maintenant désormais. Tartuffe, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Le ministre de la Défense, le social-démocrate Boris Pistorius, donc allemand, s'est opposé à l'idée d'un tirage au sort, tandis que ses partenaires de coalition chrétien-démocrate étaient pour. Finalement, l'Allemagne va d'abord proposer une solde élevée, la thunasse, les gars, afin d'attirer les candidats. Donc je crois qu'en Allemagne, je sais pas, ils sont pas sur du 2000 euros et quelques, un truc comme ça. S'ils ne sont pas assez nombreux, une forme d'obligation pourrait être instaurée, mais ce sera dans un deuxième temps si le quota n'est pas rempli. Ok. Là, on est sur du 2000 balles et quelques, je crois. Voilà. Et on a un petit encadré aussi dans la croix sur le service militaire français qui revient là pour voir s'il y a d'autres infos par rapport aux Parisiens. J'ai pas trop compris le fonctionnement pour offrir des subs. Genre, ça prend des gens random dans les viewers et ils ont des privilèges subs. Oui, c'est ça. Anonymous, quand tu offres des abonnements à la communauté, Twitch va choisir aléatoirement des gens, ils vont recevoir cet abonnement. Voilà, mais tu peux aussi, toi, désigner quelqu'un. Tu peux aussi désigner un pseudo en disant c'est lui, je veux que lui soit sub. Alors, est-ce que dans la croix, dans les infos qu'on n'avait pas dans le Parisien? Ah, et Sugar me dit ce sont des viewers récents qui sont choisis. D'accord, ok. Et si tu es tiré au sort et que tu veux pas y aller, tu es libre ou non, tu finis en tôle? Si tu es tiré au sort pour un sub, Papite, et que tu veux pas du sub, est-ce que tu vas en tôle? Non. Non, non, je pense pas. Il n'y a pas de raison. Le mec, c'est le mec qui comprend rien. J'avais compris ta question. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans la croix qu'il n'y aurait pas dans le Parisien? Donc, nouveau service national à partir de l'été prochain. Ok, objectif, renforcer le pacte noué entre la nation et l'armée, renforcer la capacité de résistance, consolider la formation de nos jeunes. Ok. Blablabla, blablabla. Donc voilà, une classe d'âge, c'est 600 000 à 800 000 jeunes. Et on parle de proposer ce service au début à 2 000-3 000 jeunes. Vous voyez, donc c'est quand même une toute petite partie sur la base du volontariat. Voilà, on vise des jeunes de 18 à 19 ans, ok? Ils serviront sous statut militaire, porteront un uniforme, toucheront une solde, donc ils seront bien vraiment intégrés à l'armée. Ok? Leur service commencera par un mois de formation, donc ça on l'a vu tout à l'heure, ok? Donc là on recoupe les infos du Parisien, tout va bien. Les 9 mois suivants, les volontaires seront insérés dans les trois armées et les services de soutien. Donc trois armées, on parle de l'armée de terre, l'armée de l'air, armée la marine. Donc voilà. Et pour ne pas les pénaliser dans leurs études, les volontaires étudiants bénéficieront de crédits de formation européens, les ECTS. Qui va payer, demande René. Bah toi René. Voilà. René, tu ne le savais pas, mais ça va coûter à peu près 2 milliards et demi, je crois, sur je sais plus combien d'années. C'est toi René. Il y a une taxe, on appelle ça la taxe René d'ailleurs. Et tout le monde te dit merci d'ailleurs. Mustang Flow te dit merci. C'est toi René. Les volontaires ne seront pas engagés dans les opérations extérieures, les OPEX. Donc ni dans un pays de l'OTAN du flanc est de l'Europe, ni en Ukraine, ni dans les bases militaires françaises du Proche-Orient, du continent africain. Donc ils vont rester sur le sol français. Tout le monde te dit René. Hey, tout le monde te dit merci René. Hein. Regarde, dans le chat Twitch, t'as des dizaines de merci René, quoi. René. À ton âge. Oui, bah justement, à ton âge, t'as pu mettre un peu de côté. Tout le monde te dit merci. Hein. Mais en vrai, merci René. C'est hyper généreux. Voilà. Donc, ils seront notamment affectés à l'opération Sentinelle, à la protection des sites militaires. À leur participation, l'opération Sentinelle est très attendue par l'armée de terre qui en fournit l'essentiel des effectifs, l'obligeant à jongler avec le cœur de son métier. L'entraînement au combat de haute intensité. Okay. Donc, en gros, ils vont un peu utiliser ces nouvelles recrues pour notamment les missions de sécurité, de sécurisation, ce qui permettra d'enlever des militaires pros pour les mettre sur des missions un peu plus hautes, quoi, ou d'entraînement, quoi. Le format de ce nouveau service militaire correspond aux besoins des armées et à l'état de la menace, tel que la Revue nationale stratégique, la RNS, l'a identifié en juillet, précise l'entourage d'Emmanuel Macron, soit une attaque de la Russie. Pas la menace que les militaires français imaginent aujourd'hui, c'est pas une attaque de la Russie contre les frontières françaises. Une attaque de la Russie sur le flanc est de l'Europe à l'horizon 2030. Une attaque de la Russie contre un nouveau pays à l'est de l'Europe. Les jeunes répondront-ils à l'appel? Les jeunes répondront-ils à l'appel? Si la société est vraiment convaincue du niveau de la menace, les effectifs visés seront atteints, juge une historienne qui s'appelle Bénédicte Chéron. Reste à savoir si les missions proposées seront de nature à les enthousiasmer. Ok, c'est intéressant. Je trouve qu'entre ces deux articles du Parisien et de la Croix, on y voit à peu près clair, quoi. Après, il faut que ce truc soit voté, hein, je pense. Tu peux pas mettre ça comme ça. Hein. Faut une loi. Hein. Faut une loi. Hein. Il faut que ce truc soit voté. Hein. Donc là, blablabla, service, c'est un projet. Hein. C'est un projet, ça. Hein. Hein? Encore heureux, disait Lise. Si les jeunes ne répondent pas à l'appel, peut-être qu'ils répondront à la pioche, dit Noxel Music. Ou au râteau. Combien de subs pour un stream en tenue de mousse sorti de la cave? En tenue de mousse. Ah, de matelot, tu veux dire? Non, il faut pas. Non. Franchement, même pour 1 million d'euros, je le ferai pas. Parce qu'en fait, il faut respecter ça. Je pense que les militaires et les militaires de carrière pourraient mal le prendre et ils auraient raison, en fait. On joue pas avec l'uniforme, quoi. Tu vois, il y a des gens qui ont perdu leur vie pour défendre les intérêts de notre pays, tu vois, voire défendre les frontières de notre pays dans l'histoire. Je me vois pas faire un stream avec mon uniforme de matelot, quoi. Ah. En couillon, quoi. Ce serait pas respectueux, en fait. Ce serait pas respectueux. Tu vois? Moi, j'aime bien faire le couillon, mais il y a des trucs qu'il faut respecter, quoi. Je pourrais me déguiser en... Tu vois, récemment, on a fait une OP Battlefield. Bon, tu vois, ils avaient filé des casques et tout. Déjà, moi, ça m'embêtait, en fait. Je trouvais que c'est une chose de jouer à un jeu de guerre et c'est autre chose de s'habiller en soldat. Déjà, je trouvais ça un peu étrange. Donc, moi, j'étais pas trop chaud là-dessus. Donc, il y avait des faux gilets pare-balles et tout. Donc, moi, j'ai pas voulu mettre tout ça. Bon, après, on a le droit de se déguiser en soldat, après tout. Hein, les enfants se déguisent aussi en soldat. Mais je suis quand même un peu gêné par rapport à ça. Et pour le coup, mettre un vrai uniforme, non, quoi. Voilà, un uniforme n'est pas un déguisement. Au travers, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ils m'ont laissé l'uniforme. Oui, tu gardes ton uniforme. Je pense que c'est une tradition, ça. Tu gardes ton uniforme. Tu gardes ton uniforme, ouais. C'est pas de notre faute si l'uniforme de matelot est ridicule. Non, en vrai, l'uniforme de matelot, c'est une catastrophe. Tu rentres encore dedans? Je pense que ouais, en vrai. Je pense que ouais. Beau gosse, le papy. En gros, j'ai jamais trop... Je fais à peu près le poids que je faisais à l'époque. Hein. Je pense que je suis plus en forme, même. Si un jour tu es appelé, t'as besoin de ton uniforme. Ouais. Bah, je serai matelot deuxième classe. Moi, j'ai pris 0 grade, donc... Je sais pas, ils m'en verront, mais ce sera pas fou, quoi. Il me semble pas qu'on pouvait garder l'uniforme. Ah, si, ouais, nous, ils nous le laissaient. Hein. Je peux dire que c'était vraiment officiel. Hein. Ils nous laissaient. On avait un grand sac, là, tu sais. Un grand sac en toile, là, tu sais, dans lequel on voit souvent les militaires avec ça. Un grand sac en toile. En grosse toile, là. Pour les marins, il était beau, il était tout blanc. Donc ça, tu gardes, une petite valise en fer bleu à garder. Non, il te laisse ton uniforme, ouais. Bah, ouais. J'ai gardé mon fusil aussi, mon FAMAS. Ça, je sais pas si j'avais le droit, ça, par contre. Faut que je me renseigne là-dessus. Oh, la bonne blague d'Aquarius. Non mais, le FAMAS. Vous condamnez le FAMAS? Non mais, le FAMAS. Vous le condamnez, le FAMAS? Le FAMAS. Vous le condamnez, le FAMAS? Non mais le FAMAS. FAMAS qui était fabriqué à Saint-Étienne, bien sûr. C'est manufacture Saint-Étienne, tout à fait. Ah voilà, Xaron me dit, je confirme, mon père était parachutiste et gendarme, j'ai récupéré ces deux uniformes. Non, tu gardes l'uniforme. Moi j'ai eu zéro, je suis rentré deuxième classe, je suis sorti deuxième classe, hein. J'ai pas eu de médaille, rien du tout. J'ai des copains, ils sont passés première classe, moi non. Hein. Pourtant, ça, j'ai pas fait de conneries, mais j'ai rien fait d'exceptionnel non plus, quoi, tu vois. Si à la guerre, je suis deuxième classe, quoi. C'est la base de la base, tu peux pas être en dessous, en vrai. Hein. Voilà, FAMAS, fusil d'assaut de la manufacture de l'arsenal de Saint-Étienne. Voilà. Exactement. Ils avaient payé plus cher pour être en première? Non, ils avaient plus. Je pense qu'ils avaient bossé de façon plus sérieuse que moi. Manufacture d'armes, voilà. Bon, les amis. Oh, c'est triste ça ce qui arrive là. Pouf, allez. On enchaîne? Je me lancerai bien un café là, ou au moins un peu d'eau. Vous m'autorisez à prendre un petit verre d'eau là, bougez pas. Merci encore Tartuffe. Hein. Bougez pas les beaux gosses. On est pour 10 secondes. Non mais le FAMAS, vous le condamnez le FAMAS? La sénoise, la meilleure. iPod plastique, directement l'eau des égouts. Let's go. Nous, on veut de la pub. Je sais que vous voulez de la pub, mais je vous mettrai pas de pub. C'est une chaîne sans pub ici. Pour votre confort. Il n'y a pas de pub. Qu'est-ce que ça raconte? Je reçois des SMS un petit peu là ce matin, non? Non, il y a des. On pense à moi ou quoi? Non. Ah, si la famille un peu. Ok. Du taf un peu, on propose du taf? Pas trop ce matin. Ouais. Non, pas trop. J'ai un rendez-vous marrant tout à l'heure. Sur un festival de l'humour. Qui remet des prix dans le domaine de l'humour à des humoristes, donc. Il y a un monde où on pourrait le streamer, ça pourrait être rigolo. Voilà, je sais pas si ça vous ferait marrer. Voilà. Et puis un autre rendez-vous à 17h. Et puis ce soir, Skyrim. J'ai besoin d'un clown pour une kermesse, si tu veux, c'est payé en bonbons. Ah non, c'est pas moi l'humoriste. Hein. Oui, je sais plus comment s'appelle ce festival. Un petit festival indé. Oui, c'est ça, les Oscars. Exactement. Alors c'est un, j'ai compris parce que le mail était en anglais et donc j'ai rendez-vous là à 13h je crois pour parler de ça. Oui, Oscar, je sais pas qui est cet Oscar, mais voilà, on me propose de le streamer, de l'animer je crois. Il faut que je me renseigne. Bon, désolé, j'arrête de dire des conneries puisque là on passe sur un sujet qui est waouh, enfin, qui est super triste. Voilà, sur cet effroyable incendie qui s'est passé à Hong Kong. Merci Bardino. Merci beaucoup. Plus de 250 personnes sont encore portées disparues. Il y a quelqu'un dans le chat alors qui est à Hong Kong qui nous a donné les derniers chiffres. Après le brasier géant qui s'est déclaré mercredi et qui a touché les 7 tours résidentielles de Hong Kong. C'est 7 immeubles derrière. Les images sont incroyables. Effroyables. Merci Kuro. Plus de 24 heures après le départ du feu, les pompiers aspergeaient toujours d'eau les tours calcinées et fumantes. Les images, vous avez vu, sont terribles. Calcinées et fumantes, brûlant encore par endroits ce jeudi. Dans un complexe de gratte-ciel résidentiel à Hong Kong, un incendie dans une tour, quoi, l'enfer. Composé de 8 tours d'une trentaine d'étages, un violent incendie s'est déclaré mercredi. À ce stade, il a seulement été éteint dans 4 d'entre elles, touchées par les flammes. Cet incendie, le pire qu'ait connu Hong Kong depuis des décennies, a provoqué une onde de choc dans la ville, tu m'étonnes, ville une des plus densément peuplées au monde et véritable forêt de très hauts immeubles. Et effectivement, vous avez raison, c'est une histoire d'échafaudage en bambou. C'est ça. Le président chinois Xi Jinping a exprimé ses condoléances aux victimes, ainsi que le pape Léon XIV qui a exprimé sa solidarité spirituelle envers ceux qui souffrent. Certains n'ont toujours pas retrouvé des membres de leur famille, comme la sœur et le beau-frère de Chang. Elle a essayé d'appeler ses proches qui habitaient dans le premier bâtiment ayant pris feu, mais la ligne bascule sur la messagerie vocale. Vous imaginez l'enfer. Voilà. Elle a aussi regardé les photos des corps affichés par la police, mais toujours rien. Il y avait des enfants, a-t-elle simplement dit à l'AFP, la voix tremblante. Oui. Le problème, ce serait pas tant les échafaudages de bambou que les bâches qu'il y avait autour, mais on va voir ça dans un instant. Selon les autorités, le feu a rapidement gagné 7 des 8 tours de ce complexe datant de 83, comprenant 1984 logements. Le niveau d'alerte 5 le plus élevé a été déclenché. Les soldats du feu ont tenté toute la nuit de circonscrire le brasier. Ces immeubles, ces tours étaient en rénovation en fait. Ils étaient entourés d'échafaudages en bambou avec des bâches autour. Peut-être en plastique. Au moins 83 personnes ont trouvé la mort, mais en fait c'est a priori beaucoup plus, dont un pompier. Plus de 250 personnes sont toujours portées disparues, donc le bilan peut vraiment s'alourdir. Environ 900 habitants ont été évacués dans des centres temporaires, des dizaines d'autres hospitalisés, quelques-unes dans un état critique. Parmi les personnes se trouvant chez elles, c'était un après-midi en semaine, figurait un certain nombre de personnes âgées. Monsieur Huen, 65 ans, qui habite là depuis plus de 40 ans, expliquait que beaucoup de ses voisins étaient âgés et à mobilité réduite. On parle d'un dernier bilan de 128 morts. Donc personnes âgées, mobilité réduite. Certaines personnes ignoraient même qu'il y avait un incendie. Elles ont dû être prévenues par téléphone par leurs voisins, raconte ce résident. Les interventions des secours ont jusqu'à présent mobilisé plus de 1200 personnes, plus de 200 engins anti-incendie, 100 ambulances. Des chaînes de solidarité sont mises en place aux alentours des immeubles, des centaines de volontaires apportant eau et matelas. Les causes de l'incendie, comment expliquer qu'en 2025, un pays, un endroit aussi riche que Hong Kong, puisse connaître ce genre de tragédie ? Les causes de l'incendie, qui a semblé se propager notamment par les échafaudages en bambou, n'ont pas encore été établies précisément. La police a cependant arrêté 3 cadres de l'entreprise chargée des travaux de rénovation, accusés de négligence, après des matériaux inflammables abandonnés, peut-être des bâches en plastique qui entouraient les échafaudages en bambou. 5 immeubles et si peu de morts. Florent parle de 180 morts, là il t'en faut combien en vrai pour que ça fasse beaucoup ? Pardon, je suis un peu cash là, mais Florent, à partir de combien de morts tu estimes qu'on dépasse les si peu ? T'as littéralement, a priori, 185 morts ? Juste pour des raisons des règles de sécurité pas observées, il t'en faut combien en fait pour que ça fasse beaucoup ? C'est gigantesque ! C'est gigantesque ! Plus, et ça peut s'alourdir. Hein. Ils ont réussi à évacuer, je pense, une partie des gens quand même. Et heureusement, quoi. Donc, 3 cadres de l'entreprise chargés des travaux de rénovation ont été interpellés, susceptibles d'être inculpés d'homicide involontaire. Les façades des tours étaient recouvertes donc d'échafaudages en bambou. Voilà. Comme il est tradition à Hong Kong, ça c'est pas très très nouveau, enveloppés de filets et de bâches en plastique. La police soupçonne que beaucoup de ces matériaux ne répondaient pas aux normes de sécurité incendie et une enquête anticorruption a été lancée. Voilà. Comme le dit Vici Sparda, le vrai problème c'est sûrement moins les bambous que le respect des normes de sécurité. Et il nous rappelle qu'un drame avait eu lieu sur une école, tu parles de Hong Kong toujours, où les gars avaient stocké énormément de trucs sur les toits, totalement irresponsable. T'as une Noctali. Côté météo, des vents d'environ 14 km/h ont aussi attisé l'incendie et facilité sa propagation d'un bâtiment à l'autre. Hong Kong se trouve depuis lundi en alerte rouge incendie, le niveau le plus élevé en raison du vent et d'un taux d'humidité relatif de 16%, le plus faible enregistré depuis 1984. Donc c'était en Chine, merci Vicis, pardon. Hong Kong, région administrative spéciale de Chine, 7,5 millions d'habitants, est l'un des endroits les plus densément peuplés au monde, hein, d'où ces immeubles, ce qui amplifie le risque de catastrophe urbaine. La densité moyenne de la population y est de plus de 7100 habitants au kilomètre carré, c'est gigantesque, avec de vastes zones escarpées non constructibles. En réalité, dans les parties urbanisées, la densité de population est 3 fois supérieure. Donc ça monte à 20 000 habitants au kilomètre carré, quoi. Le centre financier où l'espace est contraint et les prix immobiliers parmi les plus élevés du monde, la vie à Hong Kong, c'est une dinguerie. Hein. Le prix de l'immobilier à Hong Kong, c'est fou. Hein. et célèbre pour ses gratte-ciels se dressant autour de sa baie. Ces dernières décennies ont été marquées par la construction d'une profusion de tours résidentielles pouvant compter plus de 50 étages. La plupart des nouveaux projets de construction ont eu lieu sur la partie continentale de la région des nouveaux territoires. Voilà. Selon les données d'une ONG, Hong Kong compte plus de 569 bâtiments de plus de 150 mètres de haut, soit le plus grand nombre au monde. À la radio, ça parlait aussi, me dit-on, ce matin, de systèmes d'alerte défaillants. Je vous lis, je vous lis. Mais ce qui est vrai, c'est que dans un pays enfin aussi riche, qu'à un moment, une entreprise, sans doute pour des raisons économiques, ne respecte pas les règles de sécurité, en fait, le sujet, il est là. Hein. Le sujet, le vrai sujet, il est là. Hein. D'où la garde à vue des trois cadres de l'entreprise. Salut Tetris. Bienvenue. Et quelle horreur, quoi. Qui ici n'a pas fait ce cauchemar d'un incendie qui prend dans une tour dans laquelle tu te trouves, quoi. Qu'est-ce que tu fais quand tu es là-haut, quoi. Il y a Alexandre Tran qui nous dit c'est intéressant, j'habite à Hong Kong et je peux vous dire que le fait que le gouvernement dise ne pas savoir pour les normes non respectées, c'est de la pure mauvaise foi. Ici, beaucoup de chantiers ont les mêmes caractéristiques, bambou, bâche, ils le savent très bien mais attendent qu'un drame arrive pour réagir. Merci. Il y a Ventriglia dans le chat TikTok qui dit « Je vois des choses sur les chantiers, ça donne des frissons dans le dos. » Salut Nolos. À suivre. Hein, si on a des éléments sur l'enquête dans les prochains jours, je vous tiendrai au courant. J'ai un gros dossier sur l'IA ce matin aussi à vous proposer. Deux articles sur deux aspects de l'IA. Alors pas les aspects les plus positifs, les plus optimistes, plutôt deux interrogations, deux inquiétudes par rapport à l'essor de l'intelligence artificielle. Hop, je change le sommaire. On est sur d'abord la menace IA, intelligence artificielle, pour les médias. C'est parti. C'est un article dans les Échos. Voilà. IA, les médias et le tsunami, l'essor de l'IA bouleverse le modèle économique des médias, déjà fragilisé par les GAFAM, donc les médias traditionnels. On pense notamment à la presse écrite que j'aime lire. Mais pas seulement, fragilisé par les GAFAM, l'un des piliers de la démocratie pourrait être ébranlé, article dans les Échos, qui est un journal de presse écrite justement et qui peut-être s'inquiète lui-même. Winter is coming. Nous entrons dans une ère glaciaire. Soizic Bouju, que je connais, je crois, directrice de Centre France La Montagne, excellent quotidien régional, donne le ton. L'anniversaire des 3 ans de ChatGPT n'est pas seulement le printemps de l'avènement des nouvelles technologies qui révolutionnent la société. L'IA générative pourrait être aussi le fossoyeur en puissance des modèles des médias traditionnels et par extension d'un pilier de la démocratie. Dans une démocratie, c'est bien qu'il y ait des médias les plus divers possibles pour informer les citoyens, quoi. Déjà laminés par les GAFAM, les recettes publicitaires de la presse ont chuté d'environ 70% en une vingtaine d'années, les médias doivent désormais faire face à une deuxième vague, un tsunami même, celui de l'IA. Ne nous y trompons pas, les médias voient des opportunités dans l'IA, mais une série d'entretiens avec des patrons et représentants du secteur pour une étude académique montre également bien combien ils sont conscients des menaces. Sauf si les médias sont corrompus, lol, dit Sarkhan Mor. Oui, bien sûr, les médias sont de diverses qualités. Voilà. Après, si dans un futur proche, l'information est dominée, pour pas dire monopolisée essentiellement par des GAFAM, des acteurs économiques géants, qu'ils soient américains ou chinois, je peux dire qu'en termes d'indépendance et de corruption, on va être bien là. Faisons-nous un petit Terminator, là. Projetons-nous un petit peu dans un futur où il n'y a plus ces fameux médias traditionnels si critiqués, sur lesquels on écrit beaucoup de choses en disant que rien ne va, surtout chez ceux qui ne les consomment pas d'ailleurs. Imaginons que tout ça disparaisse et demain, l'information est gérée uniquement par Meta, par tous les grands groupes derrière les réseaux sociaux et les plateformes qu'on utilise. Ça va être bien aussi. Vous verrez qu'on regrettera le truc d'avant. Ce sera pas mal. T'auras 4-5 gars dans le monde entier qui ne viseront que le profit et qui décideront de ce que tu dois consommer en termes d'information. Tu verras, il y a un monde où tu regretteras le système d'avant. Qui n'était pas fou, mais tu te diras, ah ouais, en fait, c'était pas fou, mais là, vraiment, c'est on s'est bien foutu de ma gueule. C'est ça la question. C'est ça la question. Ne nous y trompons pas, donc les médias voient des opportunités dans l'IA, mais une série d'entretiens avec des patrons et représentants du secteur pour une étude académique montre également combien ils sont conscients des menaces. Ce qui n'empêche pas de critiquer le système actuel, bien sûr, Gab. Voilà. Mais je peux dire que le système actuel, il est en passe de disparaître. Donc, on a bien raison de faire preuve d'esprit critique vis-à-vis d'eux, mais bientôt, on ne pourra plus les critiquer, ces médias. Voilà. Parce qu'on sera passé à autre chose, de toute façon. Et puis les critiques sur le système d'après, les gens qui seront derrière ça n'ont strictement rien à battre. On va passer à autre chose. Et ça va être compliqué à enrayer par contre. Ça va être compliqué à enrayer. Les chiffres sont édifiants. Selon le Reuters Institute, au niveau mondial, 15% des jeunes de moins de 25 ans utilisent l'IA pour s'informer. En soi, c'est pas mal d'ailleurs. En France, presque 30% des utilisateurs se servent de l'IA pour des recherches d'actualité récentes. L'IA qui a remplacé le moteur de recherche, quoi. Ou alors le moteur de recherche dans lequel maintenant il y a de l'IA. C'est un sondage qui l'indique. L'IA fait peser trois grands risques. Quels sont les risques? D'abord sur le modèle économique des médias traditionnels. Pendant deux décennies, la presse avait dû apprendre à composer avec les géants technologiques. L'essentiel du trafic des sites vient de Google, notamment de Discover, et dans une moindre mesure des réseaux sociaux. Les médias vont désormais devoir apprendre à cohabiter avec ces nouveaux acteurs. J'ai l'impression d'être un petit pêcheur et d'observer un tsunami qui arrive. Nous avons été naïfs avec les GAFAM, mais c'était à une échelle que l'on pouvait piloter. Observe Soizic Bouju, donc du journal La Montagne notamment, parlant d'un changement de paradigme. Le lecteur ira-t-il cliquer sur les liens des articles s'il a tout sur des moteurs de réponse? Parce que normalement, aujourd'hui, une IA, elle est censée vous donner les sources, quoi. Mais qui vraiment ira jusqu'à consommer les sources? Qui ira jusqu'à aller chercher les liens en bas, supposer qu'ils soient là pour aller voir les... Voilà. Alors que tu as tout le résumé fait par l'IA, avec plus ou moins de rigueur d'ailleurs. Le lecteur ira-t-il cliquer sur les liens des articles s'il a tout dans les moteurs de réponse? À la clé, une baisse de l'audience entraînant une chute de la publicité pour ces médias historiques, en plus d'une invisibilisation des marques des médias. On se fait piller et de plus en plus nos contenus servent à créer des offres alternatives qui nous concurrencent. Parce que ces IA qui vous proposent de l'info, elles ne les inventent pas ces infos. Enfin si, parfois elles les inventent d'ailleurs, c'est un petit peu embêtant. Mais quand elles font correctement leur travail, ces infos, elles ne les inventent pas. Elles vont les pomper, les piquer à des médias traditionnels qu'on travaillait. On se fait piller, voilà, et en plus nos contenus servent à créer des offres alternatives qui nous concurrencent. C'est vrai que c'est assez fou quoi. C'est la double peine, résume Bernard Gillet, directeur du Pôle News du Figaro, président du GEST. Des médias affaiblis ne pourront plus investir et jouer pleinement leur rôle dans une démocratie. La deuxième menace porte sur le pluralisme de la presse. En France, les accords entre médias et acteurs de l'IA se comptent parmi les doigts d'une main. Parmi les principaux, Le Monde, OpenAI et AFP Mistral. Même si ces contrats ont fait grincer des dents, Louis Dreyfus, le patron du Monde, le défend. L'IA lui permet de toucher une audience jeune, d'avoir un taux de conversion supérieur à celui d'habitude qu'apportent les moteurs de recherche, mais aussi une source de revenus particulièrement importante. Quid de ceux qui ne seront pas les heureux élus, hein, où il n'y aura pas d'accord entre les GAFAM et ces médias traditionnels, il faut impérativement un accord collectif. Mais il n'y a pas des articles écrits par des IA ? Alors a priori, pas dans les journaux que je lis, moi. Voilà. Le jour où j'apprends que les journaux que je vous lis le matin sont écrits par des IA, voilà, et avec une part qui pourrait devenir conséquente, j'arrêterai de lire ce journal. J'essaierai de trouver plutôt les sources qui ont servi à cette IA pour vous donner cette info, pour remonter au plus près de l'actu, quoi. Quid de ceux qui ne seront pas donc ces heureux élus, il faut impérativement un accord collectif afin que la diversité des acteurs soit bien représentée. Voilà, en gros, ce que dit ce passage, c'est qu'il y a des gros médias qui vont peut-être faire des deals avec des GAFAM et avec un financement, mais pour les plus petits, ça va être compliqué, quoi. Nombre de géants de l'IA ne semblent pas pressés de rémunérer la presse plus largement, alors que pourtant, c'est bien de cette matière dont ils se nourrissent. Je ne crois pas que les GAFAM emploient beaucoup de journalistes. Ils ciblent souvent les deux ou trois leaders médiatiques par bassin linguistique. Voilà. Et vous avez un expert ici qui s'inquiète du risque de la poursuite de la paupérisation de ce secteur. Voilà. Pour eux, on est des dinosaures en voie de disparition, ironise le directeur général de CIPA West France. Avec des accords limités, une partie de la presse pourrait être reléguée au second plan, donc les plus petits, alors que de nombreux travaux ont montré l'importance de la diversité des titres et du pluralisme des opinions dans la démocratie. Le troisième grand risque est plus insidieux, ChatGPT, Gemini ou Perplexity, en voulant répondre à tout prix, n'hésite pas à inventer, ça vous le savez. Le taux de désinformation répété par les grands chatbots a doublé en un an, des chatbots pouvant insérer des erreurs en prenant des articles juste de jour. Non seulement l'IA n'invente rien, mais parfois, en allant pomper des contenus, elle arrive à se gourer, voilà, et à transformer l'information. Qui à la base n'est pas toujours folle déjà, mais ils arrivent à faire encore moins bien, quoi. Le lecteur saura-t-il distinguer ce qui vient de la presse et du robot ? Si les grands modèles de langage s'entraînent avec des données peu fiables, voire fausses, c'est l'espace public qui risque d'être pollué. À cela s'ajoutent des algorithmes qui peuvent orienter les chatbots, en témoignent les polémiques récentes sur Grok, l'IA de Musk. Que faire ? Est-ce qu'il faut s'en remettre à l'État ? Bof. Le poids des médias et de la presse a beaucoup baissé depuis une décennie en termes de lobbying, à l'heure où les interviews maintenant se font sur TikTok et YouTube. On a désormais conscience qu'on est mortel et que l'État ne nous sauvera pas. En clair, les médias vont devoir se débrouiller pour continuer à garder le lien avec leurs lecteurs, leurs abonnés, pour ceux qui vont continuer à vouloir disposer d'une information de qualité, dans un contexte de désintermédiation croissante. Parallèlement, tous ou presque tentent de nouer des accords avec des sociétés d'IA pour ne pas se laisser dépasser. Je vais vous lire parce que je vois des commentaires très intéressants. Paradoxalement, le salut viendra peut-être des IA elles-mêmes. Paradoxalement, le salut viendra peut-être des IA elles-mêmes qui ont intérêt à garder en vie les médias, au moins un minimum, pour actualiser et fiabiliser leurs réponses. Comme les IA se servent du contenu informatif produit par des médias traditionnels, si ces médias disparaissent ou s'affaiblissent trop, les IA, les grands GAFAM, n'auront plus rien à nous proposer, quoi. À moins de créer des rédactions et d'embaucher des journalistes, et de devenir donc des médias traditionnels, ce qui ne risque pas d'arriver. Perplexité, par exemple, a lancé des initiatives en ce sens. Le vrai danger de l'IA est qu'elle est en train de devenir le portail de l'accès à l'information de demain. On va tous se servir demain de l'IA pour accéder à l'information. Qu'est-ce qui se passe si deux ou trois entreprises américaines ont une influence majeure sur la manière dont les gens pensent dans le monde, preuve que les opinions peuvent converger? Dans le chat, j'ai vu des messages très intéressants, notamment en disant « Oui, mais Samuel, tu as oublié de dire... » Alors non, je n'oublie pas, parce qu'on en parle quasiment tous les jours, mais tu n'es pas obligé d'être là à chaque fois, que déjà, il y a beaucoup de médias traditionnels en France, par exemple, qui appartiennent à des grands groupes, à des milliardaires. Les Échos, ça appartient, qu'on est en train de lire, ça appartient à un grand groupe. Le Parisien, ça appartient à un grand groupe, qui pourrait changer de groupe d'ailleurs. Libération, alors aujourd'hui, est plus indépendant qu'il ne l'a été, mais parfois a été financé par des milliardaires, mais c'est moins le cas aujourd'hui. Le Figaro appartient à un grand groupe. La Croix est un journal qui n'appartient pas à un grand groupe, qu'un journal qui appartient à un groupe de presse indépendant. L'Humanité, bon, bah, c'est un journal qui est absolument pas soutenu par un grand groupe pour des raisons évidentes. L'opinion, je sais pas si l'opinion n'a pas été rachetée, peut-être pas encore. On ne peut pas dire qu'à ce jour, l'opinion appartient à un grand groupe, même si il porte une parole extrêmement libérale. Je ne sais plus trop sur l'opinion. Les Échos, je vous l'ai dit, l'équipe appartient à un grand groupe, je crois. Et le Monde a une... Je crois s'est organisé pour que, quel que soit le propriétaire, la rédaction soit indépendante. Opinion aussi a été rachetée par LVMH. Voilà, c'était la question que je me posais. Donc vous avez raison, vous voyez, on voit que certains... pour ne pas dire beaucoup de médias traditionnels, sont déjà possédés par des milliardaires. Mais, ce qu'on voyait dans l'article des Échos, là, c'est que la question demain, c'est que non seulement les quelques médias qui restent peu ou prou indépendants vont être fragilisés par ce développement de l'IA, hein, en perdant leur financement, avec des gens qui vont les consommer de moins en moins et s'informer différemment. Et puis, entre des médias déjà, parce que si on parle des télés, des radios privées en France, la plupart sont aussi possédés par des grands groupes. Hein, hein, mettons le service public de côté qui n'est pas possédé par des milliardaires par définition. Hein. Mais là, on parle de plusieurs groupes et de plusieurs milliardaires, souvent français. Mais la question qui est posée à la fin de l'article, c'est qu'est-ce qui se passera si demain, deux ou trois entreprises américaines, peut-être rajouter un acteur chinois là-dedans, hein, ont une influence majeure sur la manière dont les gens s'informent dans le monde. Alors, je ne dis pas que la situation aujourd'hui, elle est top, hein, mais ce qui nous attend peut-être demain, c'est une concentration et un pouvoir bien plus fort dans quelques mains et a priori étrangères. Après, il restera toujours des médias ultra indépendants qui ne seront financés que par leurs lecteurs. Mediapart est un exemple extrêmement intéressant qui n'est financé que par ses lecteurs, sans publicité. Mais Mediapart est un excellent média auquel je suis abonné d'ailleurs et que je soutiens. Voilà. C'est un modèle viable, hein. Il fonctionne, il vit et il produit un contenu de qualité. Mais rapporté à la population française, par exemple, qui lit Mediapart? Quelle est l'influence de Mediapart sur la population française? Mediapart, ils ont un certain nombre de lecteurs, qui a un nombre conséquent et qui est déjà un nombre excellent au vu de la qualité de ce qu'ils proposent, mais c'est pas un média grand public. Voilà. Et la question que pose cet article, c'est le grand public, demain, lui, il va consommer peut-être essentiellement un contenu informatif produit par de l'IA et maîtrisé, notamment avec des algorithmes, par des géants, des GAFAM, a priori américain et ou chinois. lecteurs en 2023, me dit Maximilien. 220 000 lecteurs sur l'année. C'est beaucoup. Mais rapporté à la population française, on voit bien que la population elle va plutôt s'informer sur les JT, à la télé, à la radio, un peu, heureusement, les journaux. Et puis de plus en plus... avec les moteurs de recherche boostés à l'IA, quoi. Je vous lis un petit peu, parce que j'ai beaucoup parlé, là. Je sais pas, le Marcelin, c'est des devs de la commu qui m'ont fait ce petit sommaire de fou, là. Tu sais combien de personnes tu touches, Samuel, par comparaison? Bon, moi je suis un micromédia, moi. Un live Twitch, il va voir passer... Un live de revue de presse, il va voir passer à peu près 50 000 personnes différentes, à peu près. Alors, il y a 50 000 viewers uniques qui vont passer sur un live de revue de presse à un moment donné, quoi. Donc, c'est super, mais c'est... par rapport aux médias de masse, c'est tout petit. Sinon, les bonnes nouvelles, c'est quand j'en ai une dans pas longtemps à la fin, là, sur la santé, là, sur les recherches en ARM, là, qui est assez fascinant. Bon, j'ai rien compris, mais j'espère que vous comprendrez. Je vous lis, hein. Attends, je remonte le chat parce que je trouve ça très intéressant. Ouais. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Jamaïque. Ah oui, c'est ton message que je cherchais. Après, les journalistes prennent des dépêches AFP et les réécrivent pour leurs journaux. Tu as raison. Alors, pour une partie de ces articles. D'abord, dans une rédaction sérieuse, et les journaux que je vous lis normalement font partie de ces rédactions, quand le journaliste se sert d'une dépêche AFP, il doit l'indiquer. C'est-à-dire, tu verras, parfois sur des articles que je lis, en haut de l'article, juste à côté de la signature, par exemple, du journaliste, tu as écrit avec l'AFP. Donc déjà, et puis c'est pas en bas, en général c'est en haut. Et puis la grande différence aussi, c'est que pour utiliser l'AFP, il faut payer un abonnement, qui est un abonnement très cher, puisque là, on parle en fait du financement des médias traditionnels. Quand les IA des GAFAM pompent les contenus des médias traditionnels, sauf rare exception, c'est gratuitement. Là, par exemple, pour qu'une rédaction puisse utiliser l'AFP, c'est en payant un abonnement, qui est un abonnement très très cher, parce qu'il faut payer les journalistes de l'AFP, qui sont très très nombreux. Et donc, c'est bien la question du financement qui est posée. Le jour où les IA vont payer grassement les GAFAM, les médias traditionnels qu'ils pompent pour conduire le contenu sur lequel ils vont mettre de l'espace pub, les médias, ils vont trouver leur compte. Ils vont avoir des sous pour payer les journalistes et pour continuer à travailler. Tout va bien. C'est notamment une question de financement, tu vois. Donc, ton exemple de l'AFP, il est très intéressant. Si les GAFAM demain veulent filer des millions aux rédactions pour qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions, les journalistes, ils vont être contents, hein. Ils vont continuer à faire leur travail, à être lus et écoutés ou regardés par des gens qui veulent une information de qualité. Et puis, tout ira bien. Le problème, c'est notamment ça, c'est qu'aujourd'hui, ce contenu qu'ils produisent, qui a un coût humain avec le salaire des journalistes, il est pas payé par les GAFAM. Ou vraiment à la marge, quoi. Ou les GAFAM accepteront de filer de la thune à un ou deux grands médias et basta, quoi. Et les autres, walou. Et notamment les plus petits. Et notamment les plus petits. Donc encore moins de. C'est pas de diversité, mais comment on dit, c'est quoi le mot en termes de journalisme? Pluralisme, merci beaucoup, vous êtes incroyable. Mais ça pose des questions, quoi. Alors encore, loin de moi l'idée de vous dire que ce qui existe aujourd'hui est formidable. Ma crainte, c'est que ce qui arrive est encore moins bien. Voilà, vous l'avez compris. Sujet suivant, encore IA, il nous reste deux sujets. Il faut que je fasse attention parce que j'ai un rendez-vous à 13h. Est-ce que, décidément, vous allez penser que j'en ai gros sur la patate sur l'IA? Pas trop, c'est juste que je vois que cette révolution technologique qui est incroyable en vrai. Elle suscite aussi des inquiétudes. Donc, on est tous d'accord pour dire que l'IA va nous permettre de faire plein de choses incroyables en termes de productivité, de rapidité, et en termes de santé aussi. L'IA peut avoir des effets incroyables, hein, pour les chercheurs, pour soigner le cancer, par exemple. On sait qu'il y a des choses incroyables grâce à l'IA. Mais on a le droit de se dire aussi qu'une révolution technologique, elle peut aussi susciter des inquiétudes. Et là, on a un article encore dans les Échos qui nous dit que, selon une étude du MIT, remplacer l'effort cognitif par l'IA est dangereux pour le cerveau. C'est-à-dire quelqu'un qui utiliserait trop l'IA, il va rendre son cerveau un petit peu paresseux, quoi. Lisons. L'essor, pardon, des chatbots d'IA tels que ChatGPT suscite des inquiétudes chez les neuroscientifiques, précisément. Salut, Winery. Une étude du MIT montrent que leur usage intensif pourrait affaiblir nos capacités cognitives en limitant l'activité cérébrale et l'apprentissage et la réflexion. À force de prendre l'ascenseur ou l'escalier mécanique, nous sommes un certain nombre à nous retrouver au bout de quelques marches aussi essoufflés que si nous avions couru un 110 mètres en moins de 15 secondes. Je pense que ça va vous parler, ça. Et nous le savons bien, alors que c'est parce que nous ne sollicitons pas assez notre corps que nous avons, et le cœur, que nous avons le palpitant qui se met à battre la chamade au moindre effort, qui ne nous empêche pas de continuer par paresse à nous faire quotidiennement tracter de bas en haut. Ça part de l'ascenseur. 3 ans après la fracassante entrée en scène de ChatGPT, alors que les chatbots d'IA génératifs ont déjà pris dans l'intervalle une place si éminente dans nos vies, de plus en plus nombreux sont les neuroscientifiques ou neuropsychologues à tirer la sonnette d'alarme. Attention, nous disent-ils, ces escaliers mécaniques de la pensée, c'est joliment dit, que sont les ChatGPT, Gemini, Copilot, le chat et consorts, sont en train de produire le même effet sur nos cerveaux biologiques. C'est marrant. Le cerveau n'est pas un muscle, mais il est doté d'une propriété unique qui permet et justifie le parallèle, la neuroplasticité. Framboise me dit « Je sens déjà de l'impact sur ma réflexion. » C'est elle qui est à la base de tous nos apprentissages. C'est grâce à la formation massive de nouvelles synapses, jusqu'à 2 millions par minute, waouh, le truc qu'on a dans la tête, quoi, que les bébés humains sont si prodigieusement doués pour apprendre par imitation le langage que parlent en leur présence leurs parents. Le corollaire de cette neuroplasticité est que dans notre cerveau, rien n'est jamais acquis une fois pour toutes. Une fois de nouvelles compétences ou connaissances acquises, elles s'étiolent si on ne les utilise pas. Car le cerveau, de loin le plus énergivore de tous les organes, laisse les connexions synaptiques se défaire d'elles-mêmes dans les zones qui ne sont pas activées et qui finalement s'atrophient. Notre petit PC de poche, dit Oldinox, notre gros PC même, je dirais. À la lumière de ce détour par la biologie, on comprendra mieux tout l'intérêt de cette expérience menée cette année par le MIT pour tenter de préciser, de quantifier l'impact des chatbots d'IA générative sur nos cerveaux biologiques et sur nos capacités cognitives. Il a été demandé, bon, c'est juste une étude, hein, donc on peut la remettre en cause aussi, hein, à une 50aine d'étudiants de Boston, c'est pas beaucoup, divisé en 3 sous-groupes, de rédiger une courte dissertation, les uns avec ChatGPT, les autres avec un moteur de recherche de type Google, les troisièmes sans soutien externe. Je suis en train de me lire en lisant cette étude que je crois qu'on en a déjà parlé. C'est là où on voit que moi, au niveau de la plasticité, là, on en a perdu. Je crois que je vous ai déjà lu, pas cet article, mais un article qui parlait de cette étude. Je viens de m'en rappeler. Okay. Mais peut-être que vous n'étiez pas là ce jour-là. Pendant les tâches d'écriture, l'activité cérébrale des participants a été surveillée à l'aide de casques EEG, électroencéphalographie. Les résultats sont sans appel. Voilà. Les étudiants qui sont appuyés sur ChatGPT ont montré la connectivité neuronale la plus faible, avec une réduction allant jusqu'à 55% de l'engagement cognitif par rapport au groupe qui n'avait aucune assistance. Lors de la session de suivi, les étudiants ayant utilisé l'IA avaient en outre plus de difficultés à se souvenir du contenu de ce qu'ils avaient écrit, avec une rétention mémorielle amoindrie. Les chercheurs ont introduit le terme de « dette cognitive » pour décrire de désengagement cognitif accumulé. En gros, les gars étaient devenus des poulpes. Quoique les poulpes, c'est très intelligent. Des éponges. Ouais. Des mollusques. J'exagère, hein, c'est pour vous faire comprendre. Les apologistes de l'IA générative font volontiers valoir que les chatbots d'IA ne sont que les derniers en date d'une longue série de supports externes sur lesquels s'est appuyée l'humanité au cours de son histoire. L'écriture. Hein. L'imprimerie. L'ordinateur. Internet. L'ordinateur Internet nous a pas rendu totalement cons. Enfin, pas si certains quand même. Hein. La calculatrice, bah oui. À chaque fois, l'humain a délégué au nouveau support tel ou tel de ses précieuses capacités mentales. La mémoire avec l'écriture et le livre imprimé. Hein, l'écriture qui permet de moins faire travailler sa mémoire. C'est écrit, on le met de côté, quoi. Le calcul avec les machines à calculer. Voilà. Et souligne-t-il, il ne serait pas suivi pour autant un appauvrissement intellectuel généralisé à chacune de ces grandes étapes. Hein. Mais pour la neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS Sylvie Chocron, auteure de Plonger dans votre cerveau, cet argument ne tient pas, dit-elle. Ah, pourquoi ? Car selon elle, ce qui se joue avec l'arrivée de l'IA générative aidée avant celle-ci avec celle des algorithmes de recommandation du type Amazon ou Netflix, c'est d'une autre nature. Aha! Aha! Certes, le support écrit a permis de soulager la mémoire, mais l'acte d'écrire, de produire par exemple une dissertation, constitue en soi une tâche cognitive complexe, mobilisant différentes zones du cerveau, qui est moins le cas quand vous utilisez ChatGPT. De fait, c'est ce que montre l'expérience du MIT, qui a mis en évidence que les étudiants utilisant ChatGPT présentaient une activation plus prononcée dans le cortex visuel, correspondant au temps essentiellement passé à consommer visuellement le contenu produit par ChatGPT, au détriment d'autres régions associées à des processus cognitifs de haut niveau dans le cortex préfrontal, impliqué dans quoi la planification, la prise de décision, la résolution de problèmes, la mémoire de travail, l'intégration d'informations complexes. Tout ce qui nous casse un petit peu les bonbons et qu'on laisse faire maintenant l'IA générative, mais du coup notre cerveau travaille moins. Pour Sylvie Chocron et beaucoup d'autres spécialistes du cerveau, c'est donc un leurre de croire que les chatbots d'IA nous permettant d'aller plus vite nous permettent la possibilité de mettre à profit le temps ainsi gagné pour nous concentrer sur des tâches intellectuelles à haute valeur ajoutée. Parce qu'on pourrait dire ça aussi. Hein? On donne à l'IA les trucs un peu chiants, pas très compliqués, et ça nous permet, avec ce temps gagné, de réfléchir plus profondément. Deeper. Donc, de se concentrer sur les tâches intellectuelles à haute valeur ajoutée, celles qui ne sont pas et ne seront jamais automatisables. Pour conduire un raisonnement complexe ou produire une pensée critique, il faut déjà être capable de faire seul, sans support externe, un certain nombre de sous-tâches plus circonscrites, qui sont précisément celles que nous demandons à ChatGPT. Synthétiser un ensemble de documents. Résoudre un problème. Chercher la réponse à une question, explique la neuropsychologue. Elle dit que là, il y a un changement de paradigme, quoi. D'ailleurs, poursuit-elle, l'usage massif et irraisonné des chatbots ne peut venir que distordre un peu plus notre rapport au temps, nous rendre encore plus allergiques à l'attente que nous ne le sommes déjà. Rien n'est plus dissemblable à des cerveaux biologiques qui ne savent apprendre que par essai et erreur et qui ont besoin de temps pour produire quelque chose de valable, que des perroquets stochastique. Merci beaucoup. J'ai eu un doute. Vous êtes incroyable. Mais la qualité de ce chat, bordel. J'ai littéralement des dizaines de stochastiques dans le chat. C'est pas de l'IA, ça. Hein. Ça, c'est du bon gros cerveau, ça. Magnifique. Vous êtes magnifique. Ultra rapide, mais pas toujours fiable. Entre intelligence naturelle et intelligence artificielle, gardons-nous de tout phénomène de vase communicant. Bon, voilà. Bon, l'article nous appelle à la prudence dans l'utilisation de l'IA, quoi. Voilà. Point trop n'en faut, dirais-je. La stochastique, c'est quoi? C'est le domaine qui étudie, par exemple, les processus impliquant des files d'attente. Merci, Ludopif. Ah. Salut Sam, petite remarque sur les limites de la réflexion induite par l'IA, me dit Irish Coffee. On pourra probablement retrouver les mêmes effets que la calculette. Calcul plus rapide, mais calcul mental déficient. Ou le GPS, toujours se retrouver sans perte de temps, mais incapable de se repérer dans l'espace ou lire une carte. En conclusion, la capacité autonome de l'utilisateur diminue, mais sa performance globale augmente. C'est pas mal. Si je résume avec mes mots à moi, on sera plus performant, mais en même temps, on sera plus con. Hein? Autre chose que l'article ne mentionne pas, me dit Golden Lancehead, c'est qu'ils ont aussi suivi les étudiants au plus long terme, quelques semaines ou mois, et les personnes qui utilisaient l'IA n'ont pas récupéré les facultés qu'ils avaient avant. C'est hyper intéressant. C'est vachement intéressant. Certains me disent, est-ce que c'est pas ce que réclame notre système capitaliste d'ailleurs, dans le chat. en mode plus performant et un peu plus con. Pas mal. Allez, on termine avec une bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Ça m'arrive pas souvent. Voilà. Alors, il va falloir m'expliquer parce que j'ai pas tout compris. C'est carrément la une du Parisien, mesdames et messieurs, sur la révolution ARN messager en matière de santé. Ouais, ça semble être une good news, mais j'ai pas tout compris par contre. Ça m'a rappelé des cours de biologie en terminale il y a longtemps. La révolution, c'est demain. Plusieurs maladies, dont de nombreux cancers, pourraient être combattues par cette technologie. Les implications concrètes sont gigantesques et déjà à portée d'essais cliniques. ARN messager, de si belles promesses. Kézako. Cancer, insuffisance rénale, maladie de Parkinson, Charcot, plusieurs maladies pourraient être combattues par cette technologie utilisée pour les vaccins Covid il y a 5 ans, vous vous souvenez? Les chercheurs d'un laboratoire spécialisé à Orléans y voient une révolution. Reliés par des... Bon, je vous lis pas tout, hein. Blablabla, blablabla, ils sont dans un laboratoire, là. Voilà. L'ARN messager, ou ARNM, c'est... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur au-dessus, j'espère que vous l'entendez pas trop. On va pas empêcher les gens de chasser la poussière, quand même, hein. L'ARN messager, ou ARNM, s'est fait connaître du grand public à l'arrivée des premiers vaccins Covid il y a 5 ans. Cette technologie innovante a permis de sauver des millions de vies dans le monde. Son concept est simple, déclencher une réponse immunitaire spécifique et durable. Elle est porteuse d'espoirs beaucoup plus larges sur lesquels planchent des médecins partout sur la planète. On entendait au départ que l'ARN était trop fragile, que cela ne marcherait pas, se souvient un chef de projet de l'INSERM. Le Covid a tout changé et s'il y a une nouvelle pandémie, seul l'ARNM pourrait permettre d'y répondre. Il peut aussi permettre de mettre fin au cancer, d'apporter une solution contre les maladies respiratoires chroniques, etc.
Ok.
Certains pionniers y ont toujours cru, comme une Hongroise, Kathleen Carrico, un Américain, Drew Westman, qui ont pris le Nobel de médecine 2023 pour leur contribution justement au vaccin Covid ARN messager. C'est complètement innovant, game changer en matière de santé. Comment ça marche concrètement? C'est là où il faut que je me concentre parce que mes souvenirs de terminale sont très loin. Comment cela marche-t-il concrètement? Un ARN messager, alors pardon pour les scientifiques du chat, là c'est un article dans la presse grand public très vulgarisateur pour expliquer à des gens comme moi ce que c'est. Donc évidemment je pense que vous avez trouvé ça très simpliste. Un ARN messager est une sorte de mode d'emploi apporté aux cellules humaines pour qu'elles fabriquent des protéines spécifiques. Contre le cancer, par exemple, de l'ADN de la tumeur est prélevé puis transformé en ARNM qui, lui, est administré au malade pour lui permettre de fabriquer une réponse immunitaire contre sa tumeur. Les avantages d'un tel vaccin dit thérapeutique, hein, parce que souvent le vaccin dans l'esprit c'est préventif, mais là on parle de vaccin thérapeutique maintenant, sont nombreux. Un traitement personnalisé, parce que lié à la tumeur de la personne, voilà, très efficace avec peu d'effets indésirables par rapport à la chimio, particulièrement lourde et éreintante, vous le savez, si vous avez été touché par le cancer ou si l'un de vos proches a dû un jour suivre une chimio. On espère parvenir à cibler des cellules spécifiques et non celles et non toutes celles du corps humain en plus, voilà, en diminuant largement la toxicité du produit. C'est assez bien expliqué, je trouve. Bon, le Parisien, c'est un journal qui sait bien faire ça. Alors, parfois c'est compliqué, c'est-à-dire de vulgarisation, parce que parfois en vulgarisant, en simplifiant, tu dis un petit peu des bêtises. Mais je trouve que le Parisien est un journal qui fait bien ça. Les implications concrètes sont gigantesques, déjà à portée d'essais cliniques. Prenons le cancer du pancréas, particulièrement foudroyant, ça c'est une saloperie. 9 patients sur 10 en meurent dans les 5 premières années. Le diagnostic arrivant souvent trop tard pour que les traitements actuels soient efficaces. D'ici 2040, on pense qu'il deviendra la deuxième cause de mortalité par cancer aux States, la troisième en Europe. D'ores et déjà, des vaccins personnalisés à ARN messager sont testés dans le monde entier. À Orléans, par exemple, vous avez un projet de combinaison d'ARNM avec des ultrasons. L'idée est de rendre la tumeur plus perméable et réceptive à la thérapie grâce à ces ondes. D'autres recherches sont en cours pour mieux soigner l'ostéosarcome, tumeur osseuse, encore une saloperie ça, dont le taux de survie n'a pas beaucoup évolué depuis 90 et contre laquelle le traitement actuel est très agressif. Chirurgie, chimio, radiothérapie. Voilà. Mais aussi l'insuffisance rénale chronique et puis des maladies du système nerveux central, Parkinson, Charcot. Ça serait incroyable. Pour y parvenir, encore faudrait-il être en capacité de fabriquer les ARN messagers rapidement. C'est tout l'objet de recherches menées dans le laboratoire, ce laboratoire français opérationnel depuis 2023. Si on s'en donne les moyens, confient les chercheurs, il faut compter un mois entre l'identification de l'ADN et l'encapsulation de l'ARN messager pour qu'elle puisse faire son travail, quoi. Autrement dit, des traitements sur mesure qui pourraient être conçus en quelques semaines à peine. Bon, ça. Là, on donne la parole comme à des scientifiques qui y croient. La question est de savoir si ce sera aussi efficace et aussi porteur d'espoir que ces scientifiques qu'on choisit de chercher en la matière le pensent, bien sûr. Tu vois, par exemple, la fin de l'article, j'étais en train de la lire, là. Merci, Pamphile, je vais te lire dans un instant. Une ombre plane sur toutes ces étincelles médicales. Les États-Unis ont finalement, cet été, stoppé le financement des futurs vaccins ARN messagers. La raison paraît incompréhensible aux chercheurs, ils ne protégeraient pas assez. L'impact de cette décision choc est assez limité en Europe, car beaucoup de projets sont lancés sans argent américain. Donc, aux États-Unis, manifestement, alors sans doute, c'est peut-être une décision du nouveau secrétaire d'État à la Santé, vous savez, qui était un. Comment on appelle ça? Pendant le Covid, là. Enfin, qui était très sceptique, mais plus que sceptique d'ailleurs. Oui, M. Kennedy, là. Antivax, oui, c'était un antivax, voilà. Et donc, peut-être que c'est un lien aussi. Je disais dans le chat un message de Pamphile. En tant que scientifique qui travaille dans le domaine, je trouve en effet que c'est plutôt bien expliqué. C'est chouette de voir ce genre d'article bien écrit et accessible parce que c'est pas forcément simple à vulgariser. Voilà. Et Pamphile, alors, tu nous dis que tu es scientifique et que tu travailles dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? C'est-à-dire, est-ce que l'espoir de l'ARN messager en matière de santé... Il est à ce point fou, il est à ce point gigantesque, ou est-ce qu'il y a encore des doutes, des interrogations? C'est pas bon les statines? Il y a quelqu'un qui me parle des statines. C'est autre chose, c'est un autre débat, mais... Les statines, c'est pas ce qu'on utilise contre le cholestérol, notamment, c'est ça? C'est de la merde, les statines? Alors, Pamphile nous répond, donc en se présentant comme un scientifique qui bosse dans ce domaine-là, je pense que c'est un domaine émergent qui demande encore à être exploré, et il faudra des années, hein, je rajoute le mais, avant de voir les premières thérapies vraiment efficaces. Okay. Non, pas Staline, statine. Non, pas une statine de confiture au petit-déj, je crois que les statines, c'est ce qu'on prend sur, pour lutter contre le cholestérol, non? Il y a Bloom qui me dit non, les statines sont essentielles. Ok, bon, c'est un autre débat, mais ok. Ok. Donc, ça vous intéresse, vous avez un gros dossier dans le Parisien ce matin, avec un édito que je vous ai pas lu, mais il y a plein de choses, quoi. Voilà les beaux gosses. Samuel, tu sais si l'épisode de Skyrim du live d'hier va sortir sur YouTube? Oui, il va sortir cet après-midi. Normalement, c'est à partir de 13h. Sache que tous mes lives Twitch, de toute façon, sont sur YouTube, hein, J+1. Voilà. Et sache que bon, le live hier, il a été interrompu par une coupure de courant dans mon immeuble qui m'a tout fait cracher, mais que je reprends le live ce soir et on ira à la rencontre des barbes grises là. Ça va être sympa. Ouais, Skyrim ce soir. Ah, et puis demain soir, je vous ferai un stream aussi. Samedi, je vous ferai un petit stream aussi. Je sais pas si Valo ou Skyrim ou autre chose. Si, j'ai un onduleur. Bien sûr, j'ai un onduleur qui a protégé mon PC. Mais l'onduleur, j'ai mis que le PC, j'ai pas mis la table de mixage, j'ai pas mis les écrans, j'ai pas mis la caméra, tu vois. Mais en vrai, ouais, j'aurais dû mettre tout dessus, ouais. Non, bah attends, c'est pas tout. Il faut que je mette la box aussi. Parce que la box, du coup, elle a craché, parce qu'il n'y avait plus de courant. En fait, il faudrait que je mette tout sur onduleur, quoi. Puis voilà l'onduleur, parce que le courant a coupé à 22h30 à peu près. Il est revenu à minuit 45. Je suis pas sûr que mon onduleur Je suis même sûr qu'il tiendra pas le aussi longtemps quoi. Donc il a ondulé, mais voilà. Ouais, c'est ça, ça va tenir quelques minutes. Un onduleur, c'est pas une batterie. Sauf que dans l'onduleur, t'as une batterie. Mais ça va pas durer très longtemps. Je pense que je dois avoir 15 minutes, une demi-heure, je pense, max. Tu vois. Alors j'avais un groupe électrogène moi avant qui marchait au charbon. Parce que j'avais beaucoup de charbon, moi, à la cave que j'ai dû virer pour loger les modérateurs. Et donc j'avais un bloc électrogène qui marchait très bien d'ailleurs au charbon. Je ne sais pas ce qu'on a contre le charbon parce que ça fonctionne très très bien. Mais les voisins sont pleins. Les voisins sont pleins parce que soi-disant ça faisait des fumées, des... Bon, les gens sont jamais contents de toute façon. Ras le bol. De toute façon, on peut plus rien dire. Façon, enfin, eh. De toute façon, on peut plus rien dire donc.
Alors,
un grand merci pour ce matin. J'ai vu plein de choses intéressantes dans le chat. J'ai vu de la bonne humeur. J'ai eu l'envie de débattre, d'échanger. J'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Donc, je vous remercie. Amis de TikTok, je vous remercie. Amis de Twitch, je vous remercie. Amis de TikTok, je vous dis maintenant au revoir. Et je vous dis à bah, TikTok, on se retrouve pas avant lundi. Parce que sur TikTok, c'est que la revue de presse. Alors, si vous voulez voir mes autres lives de gaming et autres. Notamment, vous voyez dimanche soir, là, on a un simplet incroyable avec Étienne Moustache sur le jeu SnowRunner. Et mercredi, vous avez MVP à 10h. MVP, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Et bien, ça, c'est sur Twitch. Donc, amis de TikTok, des bisous, des ciao. Bonne fin de semaine, bon week-end, prenez soin de vous, soyez heureux. Et on se retrouve lundi, des poutous. Je cut le live. Et nous, amis de Twitch, un raid. Un raid. Et le raid. Raid, alors Laurent, tu en parles, mais sache que d'autres viewers en ont parlé déjà, et je trouve ça super. Plusieurs viewers sont venus me voir depuis le début de ce live pour me proposer un raid vers une chaîne qui fait un stream caritatif pour une association œuvrant pour rendre le loisir du jeu de société accessible aux personnes déficientes visuelles. Est-ce que c'est pas génial? Est-ce que c'est pas génial? Alors évidemment, c'est le raid qu'on va faire. Évidemment que c'est le raid qu'on va faire. Voilà, c'est très bien. Bravo à ce monsieur. Donc c'est Théo, c'est ça? Qui fait ça. Et bien sûr qu'on va aller le raid. Bien sûr, bien sûr. Théo Sacha, comment ça s'écrit? Théo underscore. Ah, je l'ai. Oh, il y a du monde, hein. Il y a 576 viewers déjà. L'association s'appelle Accessi-Jeux. Ça a l'air super. Eh ben, les goûts, eh, sans plus attendre. On y va. Oh, puis il y a plein d'invités, c'est super bien réalisé. Bon, allez, let's go, bravo. En plus, c'est un super live. Bah, bravo à eux. Ok. Théo. Sacha. C'est parti. 500. Allez, let's go. Bah, bravo à eux. Bravo à tous ceux qui sont mobilisés pour ce beau live là. On va les rejoindre un petit peu, on va leur donner de la force. Je sais que vous allez être cool comme d'habitude. On se retrouve ce soir pour du Skyrim. Hermès International, 80% des gens ils sont de gauche. Merci Hermès International, on avait justement besoin de ton avis, on l'attendait. Bonne fin de semaine, bon week-end, prenez soin de vous, soyez heureux et on va voir un beau live. À ce soir pour Skyrim. Il paraît que c'est un jeu de gauche. À ce soir. Et on trouvait de ce...